Bon, je donne la parole au public et après je te donne la parole sur le film. Où est-ce qu'ils sont, Irène et Antoine?
Ça va être l'émeute.
Il y a du monde, hein?
Oui, il y a du monde. Alors il va falloir qu'ils tiennent un peu.
Ouais, ça va aller. Où sont les deux derniers intervenants? Ils sont partis aux toilettes, je pense, après le film. Excusez-moi, il faut qu'on y aille parce que si on... Non, c'est pas grave. C'est que si on démarre pas tôt, on risque de perdre le public.
Ah, ok.
Allez-y, installez-vous. Laetitia.
Bien, on va reprendre notre discussion. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là ce matin et qui nous rejoignent. Je vais commencer tout simplement par solliciter peut-être une ou deux réactions dans le public après la projection. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole, réagir, donner leurs sentiments sur ce film? Non, vous ne voulez pas? Et alors, parmi les intervenants, est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner leur avis? François Michel, je suis certain que tu as un avis à donner sur ce film.
Merci à tous les intervenants. Vous êtes absolument passionnants. Ça nous permet de mettre un petit peu les idées en place. Simplement, et je ne suis pas la seule à avoir eu cette réaction, nous, on est un peu paumés dans les définitions géographiques. Et si on avait une carte... je crois que ça aiderait beaucoup. Non, excuse-moi, Olivier, je sais parce que je te l'avais déjà dit, mais bon, voilà. Ce matin, on était 5 ou 6 à dire la même chose. Voilà. Mais sans ça, merci à tous et merci à Olivier. Merci infiniment.
Bon, votre remarque est excellente. Je ne peux pas dire le contraire. C'est un vieux problème, hein. Il y a eu des rencontres déjà il y a 2-3 ans où, clairement, il aurait fallu avoir une carte. Et ici, on en a déjà parlé avec la technique, etc. C'est très compliqué de mettre un vidéoprojecteur à un écran. Et sinon, la solution, ça serait d'aller faire les rencontres dans une salle à 500 mètres ou 800 mètres d'ici. Et je pense qu'on perdrait une partie du public en sortant les rencontres du casino. Moi, j'aime bien l'idée des rencontres qui sont ouvertes sur le festival. Il y a un peu de gens qui font du bruit derrière, mais ça ne me dérange pas. On est sur le circuit du festival et je trouve ça bien. Donc, effectivement, sur l'Amazonie, je ne sais pas, prenez... Ouais, une vieille carte. Une vieille carte. Bon, alors je vous promets, si je suis encore là l'an prochain, je vous promets que j'apporterai une carte. D'accord ? Voilà. C'est une promesse, c'est un engagement. Voilà. François Michel, quelques mots sur le film.
Oui, merci infiniment. Alors, merci beaucoup pour cette réaction. Le géographe en moi est ravi. Je vais essayer de vous mimer l'Amazonie autant que possible. Voilà, et la carte, ce sera pour l'année prochaine, en effet. Bon, je pense que ce documentaire était donc intéressant parce qu'il permet de montrer sans doute certaines ambiguïtés qui tourne autour de la question, qui n'est pas une question neuve, hein, entre préservation de l'environnement et développement. Je pense qu'il y a un pensé dans le film, et alors là, je vais demander l'autorisation d'Olivier de savoir si je peux faire un petit sondage avec le public.
Fais un sondage, je t'en prie.
Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, que ceux qui sont philosophiquement en faveur de la protection de l'environnement lèvent la main. Ouais. Bah, je lève là aussi, hein, d'accord. On est d'accord qu'on l'est tous, en fait. Maintenant, si je peux vous demander une autre chose, j'aimerais que toutes les personnes de cette salle qui ont un téléphone portable sur eux le montrent. Voilà. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'on n'y voit pas une légère contradiction ? Voilà. Et dans l'idée que ce qui manque peut-être dans ce documentaire, c'est nous, c'est-à-dire que nous raisonnons philosophiquement sur les effets pervers de la protection de l'environnement ou pas en Amazonie, mais sans poser la question de savoir qui devrait financer cette protection de l'environnement, au nom de quoi, et quel est le rôle, plus précisément, non pas seulement des grandes multinationales, parce que c'est facile, mais également des individus qui composent le monde occidental. Donc ce serait un premier élément. Après, il y aurait beaucoup de séquences qui seraient intéressantes à déconstruire, mais voilà, pour une réaction initiale, j'en resterai là.
Irène, Antoine, Laetitia, une réaction éventuellement sur le film ?
Et moi, je veux bien, merci. Moi, j'ai apprécié le film dans sa capacité à venir enrichir un peu la problématique. Et alors, si c'est vrai que l'Europe occidentale est un peu dans les angles morts, après tout, bon, ça, pour une fois, c'est pas si grave. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était qu'il y avait une démarche un petit peu historique d'ailleurs pour rappeler que l'Amérique latine est le creuset d'une pensée qui mêle le social et l'environnemental. Ils ont un terme d'ailleurs, hein, socio-ambiental, qui, à mon sens, vient quand même enrichir un peu certaines dichotomies qu'on a tendance à accepter comme étant foncièrement distinctes, ou en tout cas qui le sont partiellement historiquement en Europe. Et donc elle a suivi une séquence de politisation qui est un peu distincte de la nôtre et dont on a sans doute intérêt, enfin, dans laquelle on peut aussi puiser. Il n'y a pas que dans sa biodiversité, mais aussi peut-être parfois dans sa grammaire politique aussi, pour reposer certaines questions. Moi, ça, ça fait partie de ce que j'ai apprécié dans le film.
Cette bonne vieille idée qu'on a déjà brassée à de nombreuses reprises les années précédentes de l'Amérique latine, qui parfois peut être un laboratoire du monde et de nos propres pratiques. Je pense que c'est très important. Ce n'est pas une périphérie du monde qui va venir s'approprier nos savoirs et nos pratiques. Il faut décentrer nos regards. C'est tout à fait fondamental. Antoine, un mot éventuellement sur...
Oui, je risque juste de répéter un peu ce qu'on a tous compris du film, mais on sait que on connaît les principaux facteurs de la déforestation.
Et on va y venir d'ailleurs.
En Amazonie et dans d'autres régions, dans le Cerrado, et on sait que c'est avant tout... la locomotive de la déforestation, c'est le soja et le bœuf. Éventuellement aussi les infrastructures énergétiques ou routières, dans le sens où elles ont un effet levier sur l'ouverture de certains territoires et sur la production. Mais effectivement, c'est un contresens de chercher à réduire la déforestation en adressant d'abord le problème, entre guillemets, enfin ce qu'on considère comme être le problème de l'agriculture vivrière. C'est complètement... c'est un non-sens, je pense.
On est d'accord, et c'est en cela que... C'est pour ça que j'avais choisi ce film, au fond. C'est qu'il pose la question, effectivement, environnement versus développement, ou même versus survie, parfois, dans le cas des pratiques agricoles qu'on avait là. Et Laetitia, un mot avant qu'on lance quand même notre discussion.
Oui. Vous m'entendez ?
Oui.
Alors déjà, merci beaucoup, parce que vous avez tout dit, donc je me retrouve en fin de ligne. Alors, je suis d'accord, on voit le socio-environnementalisme, on voit la question, effectivement, du développement versus... enfin, on voit poindre ces thématiques, en fait. Même nos propres... On voit poindre nos propres contradictions, comme dit François-Michel Letourneau, mais je crois que le grand intérêt du film, c'est de nous montrer des gens vivre en Amazonie. Et c'est vrai que ce matin, on était embêtés parce qu'on n'a pas arrêté de parler de frontières et qu'il n'y avait pas de carte. Mais cet après-midi, on va parler beaucoup de ceux qui vivent en Amazonie, des indigènes, des caboclos, en fonction des... Je ne sais même pas quel est le terme précis au Brésil. Mais c'est bien parce que là, on les a vus, en fait. Et on a vu que leurs problématiques, leurs questions, c'était des questions de comment dire, de... Quel est le terme en français de gestion budgétaire familiale, quoi. Comment on gère le foyer ? Est-ce que c'est bien de récupérer 50 rials et de renoncer à l'exploitation et à l'ouverture d'un nouveau champ de yucca, de manioc? Oui, donc c'est vraiment des questions de gestion budgétaire qui, à la limite, d'une certaine façon, se posent à tous ceux qui doivent gérer un budget familial. Quelles sont mes sources de revenus? Comment je peux mieux utiliser mon travail ou mon patrimoine pour générer le plus de revenus? Et ça m'a... Effectivement, je trouve que c'est quand même le grand intérêt du film, par-delà les discours, effectivement, qu'on va déconstruire, hein, en partie, c'est de nous avoir montré comment les gens vivaient. La diversité, ne serait-ce que des faciès, hein, on a toujours cette vision de, des Indiens en costume, j'ai envie de dire, et là on voit que c'est des Indiens
plume, les Indiens à plumes.
Oui, j'ai dit en costume,
mais bien sûr, c'est une représentation donc, traditionnelle.
C'est bien de voir que même, voilà, il y a des blonds, il y a des bruns, et des gens, et comment se construit ce rattachement au départ, ils commencent tous, ils disent... On est des Indiens d'Amazonie, et puis on voit bien que finalement, quand on les voit, ils sont très divers, même dans leurs habillements, dans leur visage. Bon. Donc tout ça, c'est quand même l'intérêt du film, et je suis très contente qu'on ait commencé par le film de ce point de vue-là, parce que ça va permettre d'incarner un peu les propos qu'on va essayer de tenir sur les enjeux de la conservation.
Quand je parlais des Indiens à plumes, je pensais à un collègue, jeune anthropologue français, qui est un ami par ailleurs, et qui me racontait son premier terrain en Amazonie brésilienne, dans le Haut-Xingu, chez les Troumaï, où il part pour faire sa thèse, il part pour 19 mois, donc il met je ne sais combien de temps, 8 jours à atteindre son terrain de thèse, et il arrive pour 19 mois, et il s'attend évidemment à avoir les Indiens à plumes de Lévi-Strauss, etc., et il arrive, et les gars qui l'accueillent, très chaleureusement d'ailleurs, parce qu'ils sont hyper habitués à voir des anthropologues, ils ont tous des shorts Nike, et ils ont planqué l'antenne parabolique, parce qu'il y avait quand même un anthropologue qui arrivait, mais dès lors qu'il s'installe vraiment et qu'il commence à faire partie de la famille, il ressort l'antenne parabolique et il regarde les matchs de foot du championnat brésilien. Bon, voilà. Et il raconte ça, lui, dans le début, dans l'avant-propos de sa thèse, pour dire, bon, voilà, sortons de là une fois pour toutes, mais même nous, praticiens des sciences humaines et sociales, jeunes praticiens des sciences humaines et sociales, dit-il à cette époque-là, on peut se faire prendre à ce genre de piège élémentaire. Bon, je reprends la discussion... Du début, disons. Alors, je voudrais qu'on commence par évoquer et peut-être essayer de quantifier, si c'est possible, l'ampleur des atteintes faites au milieu naturel en Amazonie et notamment cette grande question de la déforestation. De quoi parlons-nous exactement ? Donc, on entend parler tout le temps de la destruction de la forêt. Très concrètement, au Brésil, je ne sais pas si c'est Antoine ou François-Michel qui veut prendre la parole, c'est quoi la proportion du phénomène ? Depuis quand ? Y a-t-il une accélération depuis l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir en janvier 2019 ? Je te donne la parole et après, vous enchaînez.
Merci beaucoup. On va essayer de faire relativement rapidement. Mais donc, je disais, si on prend l'Amazonie brésilienne, ce qu'on appelle l'Amazonie légale, c'est 5 millions de kilomètres carrés. Et sur ces 5 millions de kilomètres carrés, il y a 4 millions de kilomètres carrés de forêt. Bon, c'est 8 fois la France, hein. et le reste, c'est des savanes plus ou moins épaisses. La déforestation, aujourd'hui, est autour de 800 000 km², donc ça veut dire 800 000 km² de choses qui étaient de la forêt et qui n'en sont plus. Et elle est apparue, elle était très anecdotique, concentrée dans l'est de l'Amazonie, autour de Belém, jusqu'aux années 70. Elle a démarré avec la dictature militaire vraiment fortement. Laetitia a parlé du Rondônia, etc. Et elle s'est accélérée. Les grandes années de déforestation, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas la transamazonienne et les militaires triomphants, c'est la période des années 90, en fait. Donc entre 90 et 2003, la plus grosse année, les deux plus grosses années de déforestation, c'est 94, si je me souviens bien, et sur 2003, la campagne 2002-2003, au début de l'arrivée de Lula au pouvoir. Pour donner un chiffre, à ce moment-là, on a 27 000 km² de forêts qui ont disparu en une seule année. Donc ça veut dire, vous imaginez la Bretagne recouverte d'arbres, vous revenez à la fin de l'année, il n'y a plus un seul arbre en Bretagne. C'est ça dont on parle. Et le gouvernement brésilien a été mis fortement sous pression à ce moment-là, pour plein de raisons.
Par qui ?
Par la communauté internationale, voilà, bon, je simplifie, hein, mais voilà, on va dire par la communauté internationale. Il l'était déjà avant, mais disons que des circonstances avec l'arrivée de Lula au pouvoir ont fait qu'il a fallu donner des gages sur ce dossier-là. Et ils ont mis en place, également par le fait que le ministre de l'Environnement de Lula était Marina Silva, une Amazonienne, fille, enfin, Seringueira elle-même, etc. Donc la mentalité autour de ça a un petit peu changé. Et donc le gouvernement Lula a mis en place un véritable plan de protection de l'Amazonie avec une mise en place, en fait, ça consistait à faire... Les lois existant déjà, la question était de faire respecter les lois environnementales du Brésil en Amazonie. Ils s'y sont attelés avec des punitions fortes, d'action de la police, etc., etc. Et ça a marché. Et donc la déforestation a baissé, grosso modo, de manière très régulière jusqu'en 2012 à peu près. Et là, on est passé, donc on était à 27 000 km², on est passé à 5 000 km² par an. Donc, on a quasiment divisé par 6, c'est énorme. On en reste à 5 000 km² par an, c'est un département français qui disparaît chaque année, quand même. c'est beaucoup moins, mais ça reste relativement considérable. Depuis ces années, on a eu quelques reprises un peu en dents de scie et une reprise de la déforestation qui s'observe très facilement, mais qui ne commence pas avec Bolsonaro. Elle commence sous le mandat déjà un petit peu de Dilma Rousseff et principalement Michel Temer. Et depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, on a observé une espèce de petit coup de fouet. Les gens se sont dit « Ah bah tiens, lui, il ne va pas nous embêter ». Mais on est aujourd'hui, alors on va avoir les chiffres sont publiés en général à l'automne, donc en fin octobre-novembre, on aura le décompte le plus fiable. L'année dernière, on était à peu près 10 000 km² de détruits, on va être à 10-11 000 cette année, ce qui n'est bien évidemment pas une bonne nouvelle. Mais malgré la politique du gouvernement Bolsonaro, on est à un tiers de ce qu'on était lorsque on était dans le grand, la grande déforestation du début des années 2000. Donc voilà, donc c'est toujours le verre à moitié vide et à moitié plein. Alors, si je peux juste un dernier petit point, la question qui se pose d'un point de vue scientifique, bon, tout ça a des impacts dont on pourrait parler environnementaux, mais l'une des questions qui se pose, c'est la question du point de bascule. C'est-à-dire, la forêt amazonienne, ça va être une comparaison parlante, mais c'est un peu comme une branche qu'on scie. Je ne sais pas si vous avez déjà scié une branche, vous la sciez et des fois jusqu'à 90%, et puis tout à coup, vous passez un trait de scie et elle casse. Voilà, et le point de bascule, c'est ça. C'est le trait de scie supplémentaire, qui n'est finalement qu'un seul trait de scie supplémentaire, mais qui fait tout casser. Et donc, la forêt amazonienne, l'écosystème amazonien, après on pourra revenir, parce que je pense qu'il faudrait régionaliser tout ça, mais disons que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va arriver à un moment où on aura coupé que 1000 km² ou 2000 ou 5000 de plus, mais ces 5000 km² de plus vont faire toute la différence et vont entraîner une dynamique irréversible de transformation de la forêt en quelque chose d'autre, qui pourrait être une savane boisée, qui pourrait être autre chose. Voilà. Mais donc la question qui se pose, c'est celle-là, c'est jusqu'où on peut continuer à mettre des traits de scie sans que l'ensemble de l'écosystème s'effondre.
Et ça, aujourd'hui, on ne répond pas exactement sur le point de bascule. Il n'y a pas une réponse scientifique que tu considères comme fiable, que vous considérez comme fiable.
Je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas d'expérience, donc on n'a pas déjà détruit une Amazonie pour pouvoir dire là, il faudrait arrêter. Du coup, certaines personnes disent c'est 20%, donc on y est. Certaines personnes disent c'est 25%, etc. À mon sens, en fait, le présenter de manière globale comme ça n'a pas beaucoup de sens. C'est beaucoup plus intéressant de regarder par région. Et donc il y a des régions où on a déjà passé le point de bascule, notamment dans le Mato Grosso, Rondônia, etc. Il y a des régions où on en est loin.
Ok. Côté péruvien, côté bolivien, on observe les mêmes dynamiques de destruction de la forêt, de déforestation. Et je viendrai ensuite, je vais vous interroger ensuite sur les causes. Enfin, Antoine les a déjà évoquées un tout petit peu tout à l'heure, mais on va y revenir. Mais d'abord, essayons de mesurer l'évolution.
Oui, alors juste un petit point pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Irène et moi, on représente un peu les Amazonies andines. Irène depuis le Pérou et moi depuis la Bolivie, puisqu'on a insisté ce matin sur le fait que l'Amazonie était diverse. Elle était répartie entre 9 pays. Et puis entre nous deux, on a mis des brésilianistes. Donc moi, je vais vous expliquer ça depuis la Bolivie. Alors sur la Bolivie, je suis désolée, je n'aurais pas un tableau aussi précis que celui de François-Michel Letourneau. Mais c'est sûr qu'on a des temporalités qui se recoupent sans que j'ai les chiffres aussi nets à apporter. Mais c'est sûr que dans les années 80-90, il y a quand même un boom de la déforestation assez forte en Bolivie. Et qu'à partir des années 90... et jusqu'aux années 2000-2005, en fait, on a toute une phase de régulation de la déforestation dans le cadre d'un grand programme qui s'appelle le BOLFOR, Bolivian Forest, qui va organiser l'exploitation des forêts. Et puis, il y aura aussi une loi, la Ley Forestal de 97, qui va aussi organiser l'exploitation des forêts et expliquer, et en fait, mettre de l'ordre dans les concessions forestières qui se faisaient de manière totalement sauvage. Et ça, ça va permettre quand même de réguler et de faire baisser le taux de déforestation en Amazonie bolivienne. Et c'est là qu'on retrouve le paradoxe, c'est que lorsque Evo Morales... le président indigène arrive au pouvoir en Bolivie, il arrive avec un programme assez environnementaliste. Il dit, il dit que son programme est là pour défendre la cause indienne, mais aussi pour défendre la cause environnementale et que de toute façon les deux sont liés. Et ça s'incarne dans la constitution de Bolivie de 2009 et surtout dans une loi cadre qui est assez importante qui s'appelle la loi de la Madre Tierra, la loi de la terre-mère, où, pour la première fois, je crois, dans une constitution, dans une loi d'un pays, on déclare que la terre-mère, donc l'environnement, c'est une personnalité juridique, c'est-à-dire qu'on donne une personnalité juridique à un élément du monde non humain. Donc ça devrait renforcer en fait la protection de la forêt. Et finalement, c'est pas du tout ça qui se passe, parce que, mais ça, on va beaucoup en parler, parce qu'il y a, au-delà de ce discours environnementaliste et au-delà de ce cadre juridique qui se met en place, qui est très protectionniste, on a un gouvernement qui va être, qui va remettre en branle en fait des modèles extractivistes et qui va dire, qui va finalement reconnaître que le développement de la Bolivie passe par l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles.
Alors on va venir aux causes, mais en tout cas tu nous dis une chose très importante. Il y a peut-être de l'écho là, bizarrement. C'est que la déforestation n'est pas un monopole de la droite. Enfin, je veux dire, on ne peut pas penser, basiquement, Evo Morales arrive, il cesse de déforester, et Bolsonaro arrive, il va déforester beaucoup plus que tous les autres. C'est infiniment plus complexe, on est dans des logiques structurelles différentes. Un mot sur le Pérou, Irène ?
Oui, ben, le Pérou, lui, comment dire, possède la caractéristique d'avoir eu... Il y a une personne qui me posait la question après le débat de ce matin de la mention de cet épisode de guérilla, là aussi un peu décalé dans le temps par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc il y a une séquence de gouvernement militaire plus ou moins révolutionnaire dans les années 70, et puis de façon décalée, un peu sur une chronologie similaire à celle du Guatemala, le Pérou est divisé pendant une quinzaine d'années, une douzaine d'années par des mouvements de violence interne, une espèce de guerre civile qui va favoriser en fait qui va précipiter un gros épisode de violence. Et à l'issue de cet épisode de violence, puisque la grammaire initiale auto-revendiquée par le mouvement du Sentier Lumineux était dite d'inspiration maoïste, dans les faits, voilà, c'est discutable, la gauche, qui pourtant avait commencé un aggiornamiento politique à la fin des années 70, se retrouve éradiquée, et ça laisse le champ libre dans les années 90, c'est ce qu'on a appelé vraiment au Pérou l'avènement massif de ce qu'on a appelé le consensus de Washington. Donc pour le coup, là, le Pérou n'est pas un contre-exemple, ne vient pas nourrir ce que tu dis, mais au contraire, lorsque Fujimori arrive au pouvoir en 92, enfin en tout cas fait un auto-coup d'État, il est poussé par la communauté internationale à procéder à promulguer une nouvelle constitution qui respecte partiellement les droits des peuples autochtones et partiellement prend en compte la question environnementale, ce qui n'empêche pas du tout la fuite en avant dans l'extractivisme. Et ce qu'on constate, c'est que les contre-feux sont extrêmement faibles.
Voilà. Alors justement, vous avez anticipé déjà. Bon, ok, donc on détruit la forêt. Pourquoi la détruit-on ? Donc, Antoine, tout à l'heure, tu lançais des premiers éléments. Tu disais, bon, voilà, on la détruit en gros pour le soja et on la détruit pour l'élevage bovin. Cette logique, notamment de l'extension de la culture intensive du soja, elle apparaît quand ? Elle s'articule comment avec l'évolution des cours des marchés internationaux ? Et y a-t-il, au-delà de ça, d'autres raisons de déforester ? Par exemple, extraction de ressources naturelles, autres que soja, etc. En gros, pour proposer une vision de synthèse, disons.
Pour l'Amazonie, c'est avant tout le bétail, avant tout l'élevage. Et ça, c'est quelque chose qui commence à apparaître avec le régime militaire, qui ouvre la voie en subventionnant un certain nombre de grands ranchs, de grandes entreprises. Et beaucoup de gens vont se rendre compte que c'est effectivement la manière la plus facile d'acquérir des terres et de les exploiter très rapidement. Et aussi de mettre les autorités devant le fait accompli, de déforester rapidement pour pouvoir après demander la régularisation de terres. Ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup de paysans moyens, voire de petits éleveurs qui vont se lancer là-dedans également. Alors que le soja, il est, on va dire, cultivé de plus en plus massivement à la même époque, mais plutôt dans le Cerrado, qui est plutôt une région de savane aussi très grande également, qui est aussi confronté à un très gros problème de déboisement et qui est au sud de l'Amazonie. Le soja en Amazonie, c'est plutôt à partir du début des années 90, et ça n'est pas cultivé dans les mêmes proportions que dans le Cerrado aujourd'hui.
François-Michel, tu voulais intervenir ?
Oui, effectivement, donc le soja rentre en Amazonie légale brésilienne, dans les fameux millions de kilomètres carrés au sud, je mime la savane, donc principalement dans un écosystème qui n'est pas l'écosystème de la forêt amazonienne, même si c'est dans la région administrative considérée comme l'Amazonie légale. Il rentre de plus en plus dans la forêt, mais ce n'est pas vraiment le milieu de prédilection parce qu'il y a des contraintes agronomiques qui sont plus compliquées à maîtriser. Effectivement, le rouleau compresseur de la déforestation en Amazonie, c'est l'élevage bovin.
Alors attends, juste un truc, si je comprends bien. Si on signe, enfin on, si nos gouvernements ratifient l'accord Union européenne-Mercosur, dont on dit qu'il va favoriser notamment l'exportation de viande bovine latino-américaine vers l'Europe et accessoirement tuer, on va favoriser la déforestation.
Oui, on peut le dire, mais justement, j'allais y venir. En fait, de toute manière, on consomme déjà de la déforestation, ce qu'on appelle la déforestation importée en Europe, parce que le Brésil, effectivement, par le développement de l'élevage bovin, participe du marché mondial de la viande. Jusqu'ici, ce qui se passait, c'est que nous n'achetons pas de la viande amazonienne qui n'est pas de très bonne qualité, mais nous achetons de la viande du sud du Brésil. Or, les Brésiliens du sud du Brésil, eux, achètent la viande d'Amazonie qui substitue la leur pour la manger. Donc, au total, dans ce jeu de vases communicants, de toute manière, nous sommes déjà ici, tous ensemble, nous sommes des vecteurs de déforestation d'Amazonie.
Et le soja brésilien, d'ailleurs, où va-t-il ? Brésilien ou autre, d'ailleurs ?
Surtout en Chine, aujourd'hui.
En Chine.
Donc, nous parlons de la Chine.
Non, mais c'est vrai que souvent, c'est un paradoxe. Enfin, c'est l'exemple que j'utilise pour mes étudiants, pour leur faire comprendre ce qu'est la mondialisation. Je dis, la mondialisation, c'est des jeux d'espace, c'est des territoires qui se mettent en relation de manière tout à fait inédite. Et entre autres, effectivement, le soja qui est produit en Amazonie sert à alimenter les élevages avicoles, c'est-à-dire les élevages de poulets en Asie. Parce qu'il y a une croissance en Asie, et donc avec cette croissance et cette classe moyenne de plus en plus importante, il y a une consommation de poulet de plus importante. Le poulet, c'est la première viande que vous mangez, c'est la viande la plus économique que vous pouvez manger quand votre niveau de vie s'élève. Et donc l'augmentation de la consommation de poulet en Asie se traduit par une augmentation de la production de soja, et les premiers marchés du soja latino-américain, c'est quand même l'Asie.
Antoine, puis François-Michel.
Un tout petit ajout par rapport à ça, il y a aussi une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et des tarifs prohibitifs chinois sur le soja américain qui font qu'il y a eu un basculement des exportations en fait, vers la Chine, un basculement de la source des exportations des États-Unis vers l'Amérique latine en fait, et vers le marché chinois.
Même du tourteau de soja pour nos élevages à nous aussi.
Voilà, oui, il y a du soja qui vient aussi pour nourrir nos bovins à nous, et la plus grosse partie de ce soja n'est pas bio, soyons clairs, ni bio, ni OGM, ni anti-déforestation. Mais je voulais souligner aussi, donc, pour donner quelques chiffres, il y a au Brésil à peu près un troupeau bovin de 200 millions de vaches, c'est le plus grand du monde. De ces 200 millions, il y en a 60 millions en Amazonie. Voilà. En France, on a 20 millions de bovins, on est un grand pays des vaches. Voilà. Donc ça vous donne une idée du phénomène. Et la deuxième chose, c'est que je parle de viande, mais il y a des sous-produits de l'élevage bovin. Le cuir en est un, et il est très grand. Réfléchissez d'où vient le cuir de vos chaussures. Vous aurez souvent la surprise de voir qu'il est peut-être venu d'Amazonie.
Et la dernière chose à comprendre, enfin je prends la parole sans que tu me l'aies donné, c'est pas bien, mais...
Aucun problème.
La dernière chose à comprendre, parce que quand on parle d'élevage bovin, on a peut-être la représentation de la Normandie dans la tête, mais en fait c'est un élevage bovin qui est extrêmement extensif. C'est-à-dire, j'ai plus les chiffres en tête, mais François Michel, qui a tous les chiffres, va peut-être l'avoir, mais tu peux rappeler combien, je crois qu'on met 2 vaches à l'hectare ou 3 vaches à l'hectare en Amazonie.
Ah non, beaucoup moins, tant de vaches à l'hectare, ouh là là.
Tu vois, je me suis dit,
ouh là là, non,
j'hésitais
non,
à lancer le chiffre. Mais en tout cas, quand on le voit, on voit bien que c'est des espaces énormes avec très peu du bétail disséminé. Pourquoi ? Parce que les rendements, justement, l'herbe, elle ne donne pas grand-chose. En plus, c'est des troupeaux qui sont faméliques. Enfin, moi, je connais surtout les troupeaux... boliviens, vraiment ils font peur, et donc voilà, c'est un élevage qui est différent de ce qu'on se représente et qui est très consommateur d'espace parce que ultra extensif.
Tu n'as pas été voir les bons éleveurs.
Cette logique de l'élevage, elle est présente aussi en Amazonie péruvienne, Irène ?
Non, dans une moindre mesure, il me semble que les enjeux... C'est moi ça ? Ouais. Je vais essayer de me mettre un peu loin. J'espère que tout le monde a gardé ses oreilles. Ouais, au Pérou, un des enjeux autour de la prédation à la fois spatiale et puis environnementale de l'Amazonie, elle est liée essentiellement, enfin, me semble-t-il, je ne suis pas géographe, hein, mais aux ressources du sous-sol. Et donc c'est l'activité minière qui pose un certain nombre de questions et qui vient reposer d'ailleurs à nouveau frais une partie des questions que posait le film, puisque bah, une fois qu'on va perforer un sol, bah, on le rend impropre pour le coup à la consommation vivrière, enfin aux cultures vivrières, et surtout il pose des questions de pollution des eaux. Donc il me semble qu'au Pérou, l'enjeu de la déforestation est peut-être moins central que celui des ressources aqueuses et du possible maintien d'une agriculture vivrière locale.
Absolument. François-Michel ?
Oui, alors je pense qu'il faut insister sur le fait que le secteur de l'élevage est extrêmement divers. Donc vous avez des fermes multinationales de plusieurs dizaines de milliers de bovins qui pratiquent l'amélioration génétique et qui sont vraiment ce qui se fait de mieux en termes d'élevage, ce qui ne veut pas dire le mieux sur le plan environnemental, mais au niveau, elles sont de pointe. Et vous avez un secteur de l'élevage avec des moyens et des petits et des tout petits agriculteurs ou éleveurs qui ont donc plus de difficultés à accéder à cette technique et dont les techniques sont plus frustres, éventuellement les rendements moindres. Mais néanmoins, il faut insister, pourquoi est-ce que l'élevage bovin a autant de poids en Amazonie ? D'abord pour une raison simple, c'est que les pâturages amazoniens sont d'une extrême rentabilité. Et pourquoi ? Ben parce qu'il y a beaucoup d'eau et beaucoup de soleil, donc la graminée pousse très vite. Donc ça permet d'engraisser les vaches facilement. Donc déjà, il y a un point, c'est dommage de remplacer une forêt extrêmement riche en biodiversité par ça, mais il y a quand même un facteur objectif là-dedans. La deuxième chose, c'est que souvent,
les gens qui font ça ont leur propre logique.
Faut-il la comprendre. La deuxième chose, c'est aussi que pour les propriétaires, surtout les plus petits d'entre eux, en fait, ils sont souvent dans des régions qui sont isolées. Et donc, vous essayez de faire d'autres productions agricoles. Ben, si le camion ne passe pas, vous avez perdu vos bananes. Si vous avez des productions qui sont plus difficiles d'accès au marché. Tandis que la vache, elle va marcher jusqu'à l'abattoir, tranquillement. Et vous n'êtes pas non plus obligé de la vendre à un certain moment. Elle n'a pas de temps de maturité. Vous pouvez la garder 6 mois, 1 an, 2 ans. Ces avantages-là font aussi que la vache devient pour beaucoup, et notamment sur les petits agriculteurs, et si on revient sur le documentaire envoyé Chico Mendes, la lutte de Chico Mendes a permis la création de réserves extractivistes, dont l'une porte son nom. Cette réserve extractiviste connaît des problèmes de déforestation importants de la part des gens qui étaient les collègues de Chico Mendes. Mais pourquoi ? Parce que pour eux, les vaches, c'est un livret épargne, c'est leur livret A. Et donc, du coup, eux aussi ont envie d'acheter ça, comme vous. Et du coup, pour pouvoir y arriver, la stratégie de capitalisation, elle passe par le fait de pouvoir accumuler de l'argent. Et la meilleure manière d'accumuler de l'argent, c'est d'ouvrir des petites parcelles de forêt à droite, à gauche, de mettre des vaches et puis de continuer à augmenter. Et le problème, c'est que quand tout cela se multiplie, ça finit par faire des fois des tâches de déforestation importantes. Donc juste pour terminer, on a donc deux dynamiques de déforestation. Vous avez les très grands établissements qui vont déforester beaucoup en surface. Mais comme ce sont des établissements énormes et qu'ils sont plus sous le coup de la loi, ils vont souvent aussi préserver une partie de leur surface. Donc en valeur absolue, ces gens-là déforestent beaucoup, mais en proportion de leur propriété, ils ne déforestent pas forcément énormément. Et vous avez des petits agriculteurs qui vont déforester des petites parcelles, sauf qu'en accumulant toutes ces petites parcelles, ça finit par faire une proportion de leur propriété qui est plus importante, même si la valeur absolue cumulée de l'ensemble de leur déforestation, je ne sais pas si je suis très clair, est peut-être moindre que celle des grands propriétaires. Voilà. Et on est après toujours, c'est ce que vous voyez dans le documentaire, à pointer le doigt, non c'est les grands, non c'est les petits, etc. C'est un peu les deux.
Et là, on touche, sur ce second cas que tu évoques, on touche pleinement le dilemme entre, effectivement, protection de l'environnement et développement logique individuel des acteurs qui, à un moment donné, cherchent à sortir de la pauvreté. Oui, Laetitia ?
Oui, juste avec un petit point, parce qu'on l'a bien vu dans le film, et ça permet de faire le lien avec le film. Ce qu'on voit bien, c'est qu'ils ont, tous besoin d'argent, en fait. Et du coup, en fait, le lien qu'ils ont à la nature, ou le lien qu'ils ont à la forêt... a été d'une certaine manière appauvri. Enfin, en tout cas, ça c'est peut-être pas moins net dans le film, mais c'est ce que j'ai constaté en travaillant beaucoup avec les communautés de Tacana dans le norte bolivien. C'est-à-dire que la forêt qui était dotée de plein de valeurs différentes et qui n'était pas seulement des valeurs commerciales, devient en fait, comme ils sont pris dans des circuits de totalement monétarisés, parce qu'ils veulent acheter des téléphones portables, parce qu'ils ont besoin de frigidaires, on l'a vu dans le film, parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils veulent, ils veulent avoir une petite chambre pour pouvoir envoyer leurs enfants dans le bourg au collège, pour toutes ces raisons qui font qu'ils ont besoin d'argent, eh ben ils vont, alors en Amazonie, ils brûlent, enfin en Amazonie bolivienne, ils vendent le bois, hein, ils déforestent pas seulement pour faire de l'élevage, le bois c'est, est vendu. Et donc, ils vont vendre leur bois. Et donc, finalement, ce rapport à la forêt qui était complexe, et ils trouvaient plein de ressources dans la forêt, eh ben, pour être très clair, ils vont vendre le bois. Et puis, ça va leur permettre d'acheter des médicaments. Alors qu'avant, ils trouvaient dans la forêt des plantes médicinales. Donc, ils rentrent dans des réseaux de commercialisation qui font que leur lien à la forêt, la façon dont ils appréhendent la forêt, et d'une certaine façon, jeu de mots, appauvri, alors que, parce qu'il passe par de l'argent.
Un dernier point dans notre évaluation des destructions faites de l'Amazonie, on a très peu parlé de la Guyane. Qu'est-ce qui se passe dans la partie française de la Guyane ?
La Guyane est un cas tout à fait à part, mais on pourra revenir après justement sur l'histoire du Bolsa Floresta. Il y a une, alors, on n'a pas de Bolsa Floresta en Guyane pour empêcher les gens de déforester. On a le RSA. Ça marche vachement bien. Et c'est parce que c'est le niveau, voilà. Donc c'est un peu une boutade ce que je vous dis, mais donc en Guyane la population est concentrée sur le littoral et il n'y a pas de dynamique de déforestation liée aux activités agricoles, voilà, c'est extrêmement faible. Les atteintes à l'environnement dans la forêt guyanaise sont plutôt liées à l'activité minière et d'orpaillage d'une manière générale, et elles sont sans commune mesure en termes d'échelle avec ce qui se passe en Amazonie brésilienne.
Alors c'est le produit de politiques publiques de protection ou bien parce que effectivement, la logique des acteurs guyanais n'est pas celle-là.
C'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que on a protégé fortement l'intérieur de la Guyane, mais c'était d'autant plus facile que cet intérieur était très peu peuplé et qu'il y avait une faible pression de la part des activités productives, on va dire. Et cette faible pression s'explique entre autres par le fait que la population a été concentrée sur le littoral par le biais de politiques, notamment la départementalisation, enfin, la création des services publics qui a créé plein d'emplois sur le littoral, et ensuite l'arrivée des minima sociaux qui fait que du coup, en Guyane, on n'a pas besoin forcément de cultiver un abatis pour ne pas mourir de faim, alors que dans beaucoup d'autres régions en Amazonie, c'est ou l'un ou l'autre.
Ok. Antoine, oui.
Juste un tout petit commentaire, peut-être pour conclure cette section-là. C'est le fait, comme on l'a soulevé, il y a des leviers incitatifs à la déforestation qui sont très souvent dus à des évolutions sur le marché international. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire contre, et notamment la courbe que François Michel a décrite de la déforestation, de son évolution depuis 2004, au début de la conversation, a montré que par une action de l'État, une mise en place de moyens, et notamment de police environnementale, pour pouvoir faire appliquer les lois conservationnistes qui, au Brésil et dans d'autres pays latino-américains, existent, et sont parfois même inscrites dans la Constitution, lorsque ces politiques sont mises en place, on peut vraiment limiter la déforestation. Et ce qui est remarquable dans cette courbe, c'est qu'elle descend à un moment d'augmentation du prix des matières premières sur le marché international, ce qui est une démonstration que le politique peut agir.
Tu veux dire que donc, là, tu fais une conclusion provisoire relativement optimiste quand même?
Oui, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a un gouvernement qui démantèle les organes de fiscalisation et de contrôle. Et du coup, la déforestation repart à la hausse.
Non, mais ça veut dire qu'on n'est quand même pas condamné complètement au fatalisme quand on pense ces questions-là. À un moment donné, l'action publique peut apporter des réponses à cette crise-là. On va y revenir après. Laetitia, tu voulais dire un mot ?
Non, mais pour aller dans ton sens, effectivement, ça va dans les deux sens, parce qu'en Bolivie, ce qu'on a constaté dans la deuxième période du gouvernement d'Evo Morales, donc un gouvernement de gauche indigéniste et on dit pachamamaniste, qui est visé à défendre la terre-mère, c'est qu'il y a eu plein de lois qui ont permis d'amnistie en fait sur la déforestation. On a facilité aussi la possibilité pour les petits agriculteurs de déforester. Il y a eu toute une série de lois en 2010, 2013 et 2019 qui ont favorisé d'une certaine façon, qui ont ouvert les vannes de la déforestation en fait, en diminuant les conditions qui étaient avant drastiques pour pouvoir déforester sur sa parcelle ou sur son exploitation. Donc, et ça a conduit au grand, non seulement à la déforestation, mais au feu de forêt aussi. Mais je crois qu'on va en parler.
Alors justement, je voulais avancer aussi vers d'autres formes de destruction de la forêt. Mais avant, pour scander un peu cette section, cette première partie, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dans la salle? N'hésitez pas. Oui. C'est pas que je vous crains, mais c'est le protocole.
Oui, bonjour. Je voulais juste rajouter un petit grain de sel par rapport à la déforestation en Amazonie, en Bolivie, aujourd'hui, depuis un petit moment. C'est la coca qui perturbe un petit peu certains endroits, notamment en Amazonie centrale, au Pérou, beaucoup également en Colombie, un peu plus contrôlé en Bolivie. Et là, ça participe assez bien à la déforestation, même si il n'y a pas un focus génial à faire là-dessus. Mais dans le détail, c'est vraiment quelque chose de très prégnant en Amazonie.
Oui, peut-être juste sur la question du Pérou, vous avez tout à fait raison. La raison pour laquelle on en parle moins, c'est parce que ça échappe en partie à l'action des pouvoirs publics, ne serait-ce qu'en termes de contrôle territorial. Le Pérou se retrouve autour notamment de Tingo Maria, qui est donc une de ces zones des Andes du Nord, enfin centre-nord, on va dire. La zone a partiellement échappé au contrôle étatique, au point qu'il y a régulièrement dans les campagnes présidentielles d'anciens militaires qui arrivent au pouvoir, c'était le cas d'Oyanta Humala par exemple, pour essayer de reconquérir cette zone qui a partiellement, enfin, constitue une sorte de réserve territoriale, notamment pour certains anciens guérilleros qui sont recyclés dans le narcotrafic et par le jeu des politiques de la Drug Enforcement Administration aux États-Unis, en Colombie. Je crois que le Pérou, mais alors c'est comme les matchs de foot, ça change tout le temps, mais le Pérou est repassé au premier rang de la production cocalera ces dernières années. Donc ça joue évidemment un rôle, et pour certaines parties de la population, enfin de la paysanne, c'est un moyen de survie, parfois contraint et forcé, mais parfois aussi contraint et forcé d'un point de vue économique. Donc vous avez tout à fait raison. Le débat politique, lui, se centre plus sur les questions extractivistes et minières, ne serait-ce parce que là, pour le coup, demander à l'État pérovien de contrôler, ben c'est tout ce qu'il souhaite. Donc c'est encore un autre enjeu. Merci.
J'ai une autre question dans la salle.
Merci. Bonjour, Christian, citoyen de la planète plastique, Terre, pardon, ça m'échappe toujours. Je veux revenir juste un petit peu sur le film. Je suis quelqu'un qui culpabilise tous les jours par rapport à ce qu'on fait à l'environnement. Mais là, avec ce film, vous m'avez remis une couche, je vous en remercie. Parce que j'ai été depuis demi-heure donateur au VVF, au WWF, je ne le suis plus depuis demi-heure, et dans d'autres organisations, mais je me pose beaucoup de questions. Bref, pour ma question, dernièrement, j'ai vu un autre film documentaire en parallèle au vôtre, concernant les compagnies mafieuses qui volent le terrain en Amazonie brésilienne, avec le soutien de multinationales. Et le problème est, à qui appartient la forêt amazonienne?
Alors, François-Michel, tu avais un truc à dire sur le WWF, non?
Oui, bon, sur le WWF, il se trouve que, sans vouloir faire le panégyrique de cette organisation, qui a bien évidemment ses défauts, sa mise en cause systématique est aussi une des paroles répétitives de l'extrême droite brésilienne, justement pour dénoncer toute la politique de protection de l'environnement. En gros, leur théorie du complot veut qu'il soit pris en pince, en tenaille entre deux organisations, le WWF d'un côté et Survival de l'autre, donc la protection de l'environnement, la protection des autochtones, dont le but est d'empêcher que le Brésil exploite ses ressources naturelles. Voilà. Après, sur à qui appartient l'Amazonie, en tout cas au Brésil, je peux vous donner quelques chiffres là encore, puisque c'est mon rôle de donner des chiffres, alors je vais continuer. Voilà, mais sur les 5 millions de kilomètres carrés de l'Amazonie brésilienne, vous avez à peu près la moitié de la surface qui est protégée. Et dans cette protection, c'est à peu près moitié-moitié entre des territoires autochtones, donc je parlais tout à l'heure, et des unités de conservation de l'environnement. C'est sur le papier, ça ne veut pas dire que tout ça est parfaitement bien contrôlé, etc. Mais donc, vous avez déjà 50% de l'Amazonie où, en principe, on ne fait rien. Enfin, en tout cas, ce que les peuples autochtones décident de faire, ou dans les cas des unités de conservation de l'environnement, pas d'atteinte à la forêt. Vous avez à peu près 30% de l'Amazonie, 25 et 30%, le chiffre est nébuleux parce que c'est compliqué, qui c'est de la propriété privée. Alors là, la propriété privée, c'est comme en France, hein, les propriétaires font un petit peu ce qu'ils veulent, mais je vais revenir dessus après. Et ce qui reste, c'est ce qu'on appelle les terres publiques sans destination, c'est-à-dire ce sont des terres qui appartiennent à la puissance publique, mais qui sont susceptibles d'être appropriés par n'importe quel citoyen brésilien s'il les met en valeur. Je cite entre guillemets l'expression « mettre en valeur ». Et en général, pour prouver que vous mettez en valeur des terres, la seule manière, c'est de la déforester pour montrer que vous avez fait quelque chose. Et juste pour terminer, donc sur les propriétés privées, il faut savoir que bon, il y a des lois très compliquées en Amazonie, mais en faisant simple, au Brésil, quand vous avez une propriété en Amazonie, vous n'avez droit de déboiser que 20% de la surface. Les 80% qui restent doivent être laissés en forêt. Alors, ça fait beaucoup de déforestation malgré tout, mais je demande quel propriétaire en Europe ou aux États-Unis est tenu de laisser à l'état naturel 80% de sa surface. Je pense que les paysans bosserons vont nous pendre avant qu'on arrive à 3%.
Peut-être rebondir, mais on aura aussi, on reparlera sans doute des cocaleros en Bolivie, mais sur effectivement cette mise en accusation des ONG conservationnistes, enfin qui promeuvent la conservation de l'environnement en s'alliant souvent avec les peuples indigènes. Il faut effectivement être, comme d'habitude, beaucoup plus nuancé. D'abord parce que cette façon de condamner cette alliance entre des indigènes, enfin entre le local et le global, entre ces indigènes locaux et puis ces ONG mondialisées, cette condamnation, elle provient d'abord d'un gouvernement, par exemple en Bolivie, qui est extractiviste, et notamment le vice-président bolivien, qui est un peu le penseur du post-néolibéralisme bolivien, de ce tournant développementiste. Il s'appelle Alvaro Garcia Linera. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Géopolitique de l'Amazonie » pour en fait mettre en accusation les indigènes en disant que les indigènes étaient dans une alliance toxique avec les ONG. Et en fait, derrière l'accusation de cette alliance ONG-indigène, pourquoi il accuse cette alliance ? Parce que du coup, il rend les indigènes comme des êtres finalement faibles. Et il dit, ben, en fait, il y a eu une espèce de mondialisation de notre territoire et il faut que les indigènes, d'une certaine façon, rendent des terres et qu'on redonne des terres, justement, à des paysans colonisateurs, souvent des cocaleros, qui viennent des hauts plateaux. Donc il faut être assez aussi précautionneux dans cette condamnation des ONG. Ceci dit, ces ONG, juste un point, c'est quand même elles ont besoin de fonds pour travailler. Elles se financent avec un peu des entreprises d'une certaine façon. Hein. Elles se financent en levant des projets. Et effectivement, elles s'allient il y avait eu des intérêts mutuels puisqu'elles s'alliaient aux indigènes pour avoir des fonds pour pouvoir monter des projets. C'était pour que ça tourne. Et il y a un exemple, par exemple, en Bolivie, il y avait une ONG qui s'appelait World Conservation Society, qui a beaucoup travaillé en Amazonie bolivienne, beaucoup auprès des différents territoires indigènes pour les aider à monter leur territoire, à défendre leurs terres. Et puis un jour, les indigènes leur ont demandé de partir. Entre autres, le conseil des peuples Takana leur ont dit ben non, là, partez parce que vous gagnez trop d'argent. Vous faites de l'argent sur notre dos, en fait. Ce qui est un peu le discours qu'on a vu dans le film où on dit y a des gens qui font plus d'argent que nous, alors que c'est nous qui sommes vraiment les gardiens de la conservation. Donc il y a aussi ces alliances qui sont compliquées à maintenir jusqu'au bout, parce qu'à un moment, les indigènes, on les a tellement dotés de capacités d'action, on leur a tellement montré comment ça marchait, qu'à un moment, ils disent « on va le faire tout seul ». Et donc, ils rompent un peu cette alliance avec les ONG.
Je vais revenir, Laetitia, sur la question du rôle des Indiens, des indigènes dans les politiques de conservation, mais avant... Je voudrais quand même terminer avec les dynamiques de destruction de la forêt. La forêt, on la coupe, mais elle brûle aussi. Vous le savez, vous l'avez beaucoup entendu ces derniers mois, ces dernières années. Alors d'abord, pourquoi brûle-t-elle ? Brûle-t-elle depuis toujours ? Brûle-t-elle plus désormais ? Ou brûle-t-elle en quelques mots, assez rapidement ?
Elle brûle depuis toujours, mais pas dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui. L'agriculture sur brûlis était pratiquée avant la colonisation portugaise et espagnole en Amazonie. Il y a des traces. Elle servait même à fertiliser les sols. En fait, on a trouvé des traces de charbon, de bois, par exemple, conservé sous les sols pour les fertiliser. C'était une pratique assez courante avant l'invasion européenne. ce qui a fait exploser les taux de déforestation ou ce qui a rendu cette pratique massive et insoutenable, c'est les programmes de développement, les incitations à la production de bétail à l'époque du régime militaire, à la fois parce qu'on a utilisé une technologie beaucoup plus efficace, beaucoup plus mécanisée et qui a rendu l'agriculture plus puissante. Et puis, d'un autre côté, parce qu'il y avait des incitations fiscales, comme je l'évoquais avant, par le régime militaire pour encourager les entreprises à installer de très grandes propriétés. Oui, voilà.
François Michel ?
Oui, en fait, je pense qu'il faut distinguer, il y a plusieurs sources d'incendies en Amazonie, on va dire, il y a les incendies naturels et artificiels. Sur le plan des incendies naturels, la forêt tropicale amazonienne équatoriale brûlait peu, si ce n'est sur ses marges plus au sud, et on constate aujourd'hui avec le changement climatique et le fait que les forêts sont de plus en plus souvent en stress hydrique, qu'elles commencent à brûler de temps en temps naturellement. Et le phénomène qu'on observe en Sibérie avec la toundra, etc. Donc voilà. Au niveau des incendies artificiels ou créés par l'homme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ils sont corrélatifs à la déforestation. Quand vous avez une parcelle et que vous voulez déforester, c'est pas facile parce qu'elle est pleine d'arbres, c'est mal fait. Cette forêt, il y a des arbres partout, donc il faut les enlever. Vous n'allez pas vous amuser à les découper en petits morceaux, en allumettes pour les enlever avec un tracteur. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous les coupez, vous attendez que ça sèche, et une fois que ça a séché, vous mettez le feu. Donc c'est pour ça qu'en novembre, en octobre, à partir d'août et jusqu'en novembre, l'Amazonie brûle, ce sont les parcelles déforestées qui brûlent. Le problème, d'ailleurs dans le film, une personne en parlait, lorsqu'on fait un bon abatis, on fait suffisamment de ménage autour pour que le feu ne rentre pas dans la forêt. C'est pas toujours bien fait, donc certains incendies finissent par échapper et rentrer dans la forêt. Forêt qui est, comme on vient de le dire, plus fragile, donc du coup, ça crée des catastrophes. Et des fois, des gens le font aussi exprès, parce que du coup, ça vous avance sur le travail de l'année suivante, et vous pourrez toujours dire, bah, de toute manière, cette forêt, elle était déjà à moitié détruite, donc pourquoi est-ce que je ne vais pas couper un champ de plus et deux champs de plus, et ainsi de suite. Voilà, mais donc cette relation qu'on ne voit pas très souvent en Europe quand on parle des incendies en Amazonie, c'est que la plupart de ces incendies sont des feux qui sont provoqués, qui sont parfaitement créés pour une finalité spécifique, qui consiste à débarrasser le sol pour pouvoir ensuite planter ce que vous voulez planter, souvent du pâturage.
Et accessoirement, je précise ici, vous le savez sans doute, que ce n'est pas une particularité, une spécificité de l'Amazonie, bien au contraire. On a beaucoup parlé en Amérique latine ces derniers mois des gigantesques incendies en Argentine, notamment hein, dans la vallée du Paraná, des incendies qu'on n'est pas parvenu à éteindre pendant des mois et des mois. Ça brûle aussi en Bolivie ?
Oui, ça a pas mal brûlé, et enfin, là où c'est intéressant, 5 millions, alors pour le coup j'ai le chiffre, hein, parce que je l'ai vérifié, 5 millions d'hectares en 2019, et en fait, ces grands incendies, ça a été l'occasion en fait de fédérer une lutte politique contre Evo Morales, parce qu'on a dit, ah bah ça brûle, c'est de la faute d'Evo Morales, et justement de ces lois qui ont été très permissives sur la déforestation, etc. Et donc on a vu les populations indigènes de l'Amazonie s'allier de manière assez paradoxale aux représentants de l'agro-business de Santa Cruz, c'est-à-dire des plaines orientales, mais des gens, donc des peuples indigènes, et à la fois des représentants du grand capitalisme agricole, s'allier ensemble pour renverser Evo Morales sur un discours finalement qui est un discours assez mondialisé de la conservation de l'Amazonie. C'était aussi, mais ça on le voit à tout propos, hein, agiter le drapeau ou le chiffon de l'Amazonie, c'est une façon de se rallier aussi des soutiens internationaux. Et donc voilà.
Je vais juste rajouter un mot sur les incendies de forêt par rapport notamment aux chiffres qu'on voit. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une zone de forêt qui brûle n'est pas forcément déforestée immédiatement. Donc quand il s'agit d'arbres qui sont tombés et qui ont déjà été abattus, c'est le cas. Une forêt naturelle qui brûle peut repousser après. C'est pour ça que souvent on voit des totaux de feux qui sont très importants parce qu'en fait la même parcelle brûle X fois chaque année. Ce qui ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait notamment les arbres les plus âgés qui sont suffisamment hauts sont assez peu touchés par ces incendies, souvent, sauf quand ils deviennent très très importants. Mais par contre c'est tout le sous-bois qui est dessous qui est détruit et notamment toutes les graines et les plantules qui sont l'avenir de la forêt. Donc ça veut dire que vous allez trouver votre arbre adulte qui est là. Bon, il va peut-être survivre à 1, 2, 3, 4 incendies, mais tout ce qui est en dessous va être détruit. Et quand cet arbre-là, un jour, naturellement, il va mourir, il va tomber. Normalement, vous avez des rejets qui vont se précipiter dans la lumière pour aller pour grandir. Et là, ben, ils sont tous morts. Donc, vous n'aurez personne pour remplacer votre arbre.
Oh. Peut-être un dernier point, parce que les étudiants de première année le savent, parce qu'on leur apprend. Mais dans l'agriculture sur brûlis, en fait, le vrai terme, c'est agriculture itinérante sur brûlis. C'est-à-dire on brûle, on exploite le champ pendant 2-3 ans, et puis on l'abandonne pendant 15 ans, 20 ans, et on va brûler. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le film, ils disent on va aller plus loin. On brûle, on exploite 3 ans, et puis on va brûler ailleurs. Mais pour pouvoir tourner comme ça et faire de l'agriculture sur brûlis, ça veut dire qu'il faut une grande quantité de terre par famille, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez utiliser un 20e du territoire que vous exploitez, le reste est en forêt. Donc, quand il y a une augmentation de la population en Amazonie et qu'en plus, cette population se sédentarise, c'est-à-dire qu'elle s'installe le long des routes, le long de communautés qui bougent beaucoup moins, eh ben, effectivement, il y a plus d'incendies et il y a un déséquilibre qui se fait sur un système traditionnel qui est reposé sur l'essartage. Hein.
Dernier point sur les mécaniques de destruction de l'Amazonie. Donc, on coupe les arbres, ça brûle, mais on pollue également. Alors, à quelles échelles on pollue ? Est-ce que vous avez des cas, alors notamment des cas d'extractivisme, donc d'exploitation intensive de matières premières du sous-sol, qui, à un moment donné, ont à la fois durablement abîmé les sols et posé évidemment des problèmes, donc posant un problème environnemental, mais transformant mécaniquement les conditions de vie des populations installées dans le coin. Est-ce que vous avez un ou deux cas ? Il y en a plein, je le sais. Est-ce que vous avez un ou deux cas à évoquer ?
Le fleuve Sénépa, par exemple, en 2018, au nord du Pérou, a vu se déverser en fait un certain nombre de produits en fait qui servaient à l'extraction d'un certain nombre de minerais en fait dans la cordillère du Condor, la même qui est disputée entre le Pérou et l'Équateur, notamment pour cette raison. Et ça commence à poser la question. D'abord, la contamination se fait au niveau des jeunes populations, donc ça pose des questions sanitaires et à terme possiblement de maintien localement. Voilà un exemple.
Pour ce qui est de l'Amazonie brésilienne, ça vaut pour la Guyane aussi, une des grosses pollutions est la pollution au mercure, qui est liée à l'orpaillage ou à l'activité minière de manière générale. Donc ce mercure qui est présent naturellement dans les sols tropicaux, mais qui est également utilisé pour amalgamer l'or, qui après est relâché dans la nature, on ne va pas détailler tous les mécanismes, mais voilà, mais qui va se concentrer au fur et à mesure de la chaîne alimentaire et finir par contaminer les populations qui vivent de la pêche, notamment. Donc ça, c'est un point. Je pense qu'une autre pollution à laquelle qu'on n'associe pas du tout à l'Amazonie, mais je pense qu'il est important d'en parler, même si elle n'est pas liée à la déforestation, c'est toute la pollution qui est liée aux zones urbaines. Donc voilà, Manaus est un égout à ciel ouvert, tout ça va dans l'Amazone. Ah bah oui, l'Amazone c'est un très grand fleuve, alors il peut bien charrier les égouts de 2 millions de personnes, mais 2 millions de personnes tous les jours, ça finit par faire beaucoup d'égouts, de plastique, etc. Et donc toute cette pollution dont on a pris conscience maintenant dans les océans, on la retrouve également dans les fleuves amazoniens et de manière très importante.
Okay. Antoine, tu veux répondre ?
Il y a la question assez connue du pétrole en Équateur, qui y est exploité depuis les années 70, et où les populations locales de la région amazonienne, donc Oriente, se plaignent de pollution des eaux et d'une augmentation des cas de cancer. Et il y a un procès qui dure, enfin un conflit judiciaire qui dure et qui est passé par de nombreuses cours internationales depuis le début des années 90 entre une communauté locale et Chevron Texaco. Pardon ? Oui, alors c'est des terres qui au départ, c'est des puits qui au départ étaient exploités par Chevron.
Ah, oui.
Et qui ont été reprises par Petroéquador, effectivement, par le monopole, par l'entreprise d'État.
Oui, alors moi j'aurais dit mercure aussi, donc je passe mon tour sur la pollution au mercure, puisque ça a déjà été dit. Mais en revanche, sur l'Équateur, c'est là où, quand j'avais 20 ans, le premier endroit où je suis allée en Amazonie, c'est en Amazonie équatorienne, à Lago Agrio, où j'ai passé 6 mois, donc dans la zone, le cœur de l'exploitation des hydrocarbures en Amazonie équatorienne. Et il y avait un truc hallucinant, c'est que pour faire des routes, ils étendaient en fait des résidus du pétrole en fait. Alors je suis pas très douée en exploitation pétrolière, mais apparemment c'était des sous-produits en fait du pétrole qui étaient étendus parce que sinon c'était des routes de terre. Ils disaient que c'était mieux, ça tenait la route. Mais bon, ça a été effectivement à terme, c'est une source de pollution tout à fait énorme. Et puis par ailleurs, dès qu'il pleuvait, ça donnait une glissière ces routes, hein, comme il pleut souvent en Amazonie.
Juste un mot, c'est que quand on réfléchit à ces logiques extractivistes qui contribuent à la pollution de l'Amazonie, évidemment, on voit toute la diversité aussi des acteurs impliqués, puisque évidemment, vous citez des grandes entreprises internationales, par exemple, des grandes multinationales, mais on a parfois évidemment comme premier acteur de ces dynamiques les États nationaux ou des entreprises nationales ou des acteurs privés nationaux, et puis après, dans le cas de l'orpaillage, évidemment, des acteurs privés, individuels parfois, qui sont d'autant plus difficiles, j'imagine, à réguler ou à contrôler.
Oui, non, tout à fait. Et puis je voulais rajouter un dernier acteur de la pollution, on va dire. Tout à l'heure, on a entre guillemets innocenté le soja en disant qu'il ne se faisait pas en Amazonie, c'est vrai. Mais néanmoins, toute une grande partie des savanes sur lesquelles il est fait au sud de l'Amazonie, en fait, les cours d'eau vont vers l'Amazone. Et donc, comme les sojiculteurs brésiliens ont un peu la main lourde au niveau des pesticides, eh bien, tous leurs résidus chimiques vont directement dans l'Amazone par l'intermédiaire de tout le réseau hydrographique. Et ça commence à poser aussi des problèmes de contamination des eaux qui sont assez sérieux.
Alors, dans ces circonstances, on fait quoi? Non, mais je ne vous pose pas cette question-là comme ça. Mais quelles sont les stratégies? Quelles sont les politiques publiques? Quels sont les discours qui ont pu être tenus, parfois contradictoires entre eux, pour effectivement essayer de préserver cette Amazonie qui est soumise, ou ces Amazonies qui sont soumises à des menaces très diverses. On a pu lire et entendre, et Antoine l'a évoqué très rapidement ce matin, le fait que les meilleurs protecteurs et les meilleurs connaisseurs de la nature amazonienne étaient naturellement les Indiens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'il faut attendre des politiques publiques national dans chaque pays qui soit beaucoup plus drastique? Est-ce que c'est la communauté internationale qui, à un moment donné, doit développer des normes beaucoup plus difficiles? Ou, au fond, ces questions sont-elles de fausses questions? Alors, Antoine, tu commences?
Oui. Comme l'a dit François-Michel plus tôt, il y a à peu près 45% ou 50% maintenant des territoires en Amazonie qui sont protégés, où la déforestation est soit interdite, soit très très fortement limitée par la loi. Et ce sont des zones qui obéissent à des critères différents. Elles ont chacune des noms différents. Et donc il y a des zones de protection naturelle et il y a des zones démarquées pour les populations indigènes. Et les chiffres de la déforestation sont différents en fait selon les zones. Et jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, la déforestation, d'après les chiffres officiels, avait été limitée à moins de 1% des territoires démarqués pour les indigènes. Alors que sur d'autres types de zones de protection, on atteignait parfois 13 ou 15% de déforestation illégale. Donc au niveau des chiffres, on a des chiffres qui semblent indiquer que la démarcation est un type efficace de territorialisation de la protection environnementale.
Petite parenthèse, il y a des polices environnementales qui fonctionnent tout simplement pour faire respecter la loi quelque part en Amazonie?
En Bolivie, par exemple, il y a des gardes forestiers qui sont gérés par les municipes. Et en fonction, c'est toujours pareil, en fonction des signaux qui sont envoyés par les administrations centrales, ils sont plus ou moins efficaces, ils sont plus ou moins dotés de moyens, et donc c'est-à-dire le cadre existe, les gardes forestiers sont là, mais dans une phase un peu extractiviste, on lâche un peu on accepte un niveau assez élevé de déforestation, ils sont quand même relativement moins efficaces, moins dotés, leurs voitures ne sont pas remplacées, et sans voiture on va nulle part et on ne peut pas être garde forestier en Amazonie. Donc c'est sur ce type de changement. En fait, l'institution perdure plus ou moins, c'est l'autorité Bosque y Tierra en Bolivie, mais elle peut être plus ou moins dotée. Et c'est là que les ONG peuvent avoir un rôle important, parce que quand on autorisait la présence d'ONG en Bolivie, elle venait en soutien à ces institutions étatiques et on considérait cette alliance tout à fait favorable. C'est-à-dire qu'elle venait aider en fait cette fiscalisation, ce contrôle sur les forêts. Et le gouvernement d'Evo Morales, dans un sursaut nationaliste, a dit on se défait de tout ce secteur d'ONG qui en fait nous patronise, met une tutelle en fait sur nous, et c'est une forme de néocolonialisme.
Voilà, il y a plusieurs réflexions qui viennent à écouter tes questions. La première, c'est que oui, on peut faire quelque chose, et comme le rappelait Antoine, le gouvernement brésilien a quand même réussi à appuyer le pied très fortement sur le frein de la déforestation pendant plusieurs années, donc il y a des moyens, même si justement la question qu'on avait autour de 2010-2012 était comment est-ce qu'on fait pour essayer de passer ce plancher, parce qu'on sentait qu'il y avait un plancher qui résistait, qu'on n'arrivait pas à aller en dessous. Bon, alors maintenant la question ne se pose plus puisqu'on est largement au-dessus, donc déjà si on retournait au plancher on serait content. Mais le deuxième point que je voudrais souligner quand même, après on pourra parler d'autres solutions, mais c'est surtout que c'est pas facile. Voilà. Et pour donner un tout petit exemple, puisque tu faisais le pont avec la Guyane française, donc nous avons un problème d'orpaillage clandestin en Guyane française, nous le savons, donc il y a des milliers d'orpailleurs clandestins brésiliens qui travaillent en Guyane française, et ça fait de très nombreuses années, donc on a engagé y compris les forces armées à partir de 2008, donc ça fait 12 ans que les forces armées françaises, la gendarmerie, etc., qu'on lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane. L'État français investit 70 millions d'euros par an dans la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane, et nous n'arrivons pas à éradiquer quel phénomène. Maintenant, souvenons-nous que l'Amazonie brésilienne, c'est 50 fois la Guyane française. Si je multiplie les 70 millions d'euros par 50, j'arrive à 3,5 milliards. Donc c'est ça qu'il faudrait que le Brésil soit capable, en euros, hein, soit capable de payer chaque année pour essayer de faire un contrôle qui ne serait pas absolu, puisque avec cette somme-là, nous ne réussissons pas, nous, à contrôler l'intérieur de notre Guyane. Donc ça donne une toute petite idée de la taille du phénomène à laquelle on est confronté. Un des points sur lesquels on n'a pas beaucoup insisté au départ de la journée, mais c'est bon de le rappeler aujourd'hui, nous parlons d'une étendue immense. L'Amazonie, c'est beaucoup plus grand que l'Europe, de Lisbonne jusqu'à Moscou. Donc c'est un territoire difficile d'accès, vraiment très très grand. Et c'est là où toutes les solutions simples se diluent dans cet espace gigantesque, parce que ce qui paraît une très bonne idée vue de Paris ou de Brasilia, quand on arrive sur le terrain, qu'on s'aperçoit que dans les deux points qu'on avait vus sur notre petite carte à quatre, il y a 1000 km entre les deux, et que voilà, ça fait que toute la politique qu'on avait pu imaginer devient beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.
Peut-être j'ai évidemment pas de solution simple à proposer. Peut-être en tant que juste observateur, observatrice, une des questions a été posée par un des précédents gouvernements équatoriens dans le cadre d'une réserve pétrolière qu'avait l'Équateur autour de l'initiative Yasuni. Et la proposition faite par la diplomatie équatorienne dans un cadre international, elle consistait à dire peut-on s'engager à des modes en fait de rétribution collective qui nous feraient, nous passer en fait de cette exploitation pétrolière, sachant que les bénéfices pourraient, en tout cas c'était l'argumentaire, profiter à l'ensemble de la planète, puisque en n'exploitant pas le pétrole en Équateur, qui par contre dégagerait des devises qui permettraient de mettre en place des programmes sociaux, parce que c'était un gouvernement de gauche à l'époque, on éviterait de polluer. Donc la question a été posée dans un cadre multilatéral. Il me semble qu'en termes de... Alors évidemment, ça ne dira pas tout, mais peut-être en termes d'échelle, c'est une des échelles par lesquelles on peut passer. Et il me semble qu'il y en a une autre que pose l'histoire péruvienne et qui consiste, alors évidemment on va dire que je noie le poisson, mais à faire un peu de philosophie politique. Hein, dans son dernier ouvrage, en tout cas lorsqu'il est interrogé, notamment Philippe Descola revient beaucoup là-dessus. Il me semble qu'un des enjeux majeurs, et il n'y a pas que Philippe Descola d'ailleurs, hein, toute une partie de l'historiographie française sur l'objet français ou sur d'autres objets, notamment latino-américains, invite aussi à repenser peut-être les formes de la propriété telles qu'elles sont codifiées en Europe occidentale depuis le 18e, notamment par la philosophie anglaise, en essayant de poser la question de la propriété qui puisse être potentiellement collective. Le Pérou, en gros, débat et se débat avec ces questions-là depuis 40 ou 50 ans. Il me semble que là aussi, il y a des choses qui pourraient être reposées, qui permettraient peut-être de réfléchir à ça.
François Michel.
J'avais une réaction sur Yasuni, mais donc si c'est ça dont
on parle. Non, vas-y, continue. Yasuni, c'est intéressant, le Yasuni.
Pour les plus fidèles d'entre vous, la question Yasuni en Équateur, etc., on en avait parlé quand on avait fait la journée sur l'Équateur il y a 5, 6, 7 ans, je ne sais plus, mais on avait longuement parlé. Vas-y, Laetitia.
Le commentaire sur Yasuni, c'est qu'il nous ramène à nous. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Yasuni ? L'Équateur a dit, on n'exploite pas si vous nous donnez la moitié de ce qu'on va gagner avec ça. Donc c'est à la communauté internationale de financer la protection de l'Amazonie. Ils ont obtenu même pas 3% de la somme qui était demandée. Donc ils ont dit, puisque vous ne voulez pas payer, voilà, on va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et ça nous ramène donc à cette question de qu'est-ce que nous sommes prêts, nous, nations développées, à consacrer. C'est-à-dire, si nous profitons des services environnementaux que l'Amazonie rend à la planète, est-ce que nous sommes prêts à payer la facture ?
Non, je ne sais plus ce que je voulais dire là.
Non, disons que ce que tu as dit là résonnait comme une conclusion, à part que ce n'est pas du tout l'heure de la fin, mais ça résonnait comme une conclusion et ça m'a saisi.
C'était parfait.
Je me suis dit c'était parfait, mais non, c'est pas fini. Non, un peu moins d'une heure.
Je peux le répéter à la fin.
Non, c'est bon.
Non, mais j'ai...
Vas-y, Laetitia.
Ceci dit, sur la question de la propriété de la terre, oui, c'est un enjeu. Et en Bolivie, ça a été résolu par la loi sur la terre en 1996. On a décidé qu'il y aurait quatre façons de détenir de la terre en Bolivie, dont deux façons sont de la propriété collective. Et c'est le cas des TCO, des territoires communautaires des origines, c'est de la propriété collective, c'est-à-dire on ne peut pas, une personne, c'est un titre de propriété, mais qui est donné à un ensemble qui peut être assez important, d'une centaine de familles. De même, les communautés de colons qui s'installent en Amazonie, elles obtiennent leurs terres, mais elles obtiennent, alors je ne sais pas comment ça se passe au Brésil, mais elles n'obtiennent pas 50 hectares au titre de propriété individuelle, elles obtiennent de la propriété collective. Et éventuellement, si elles partent, bien sûr, elles n'ont pas de titre de propriété. Si elles abandonnent la communauté, ce qu'elles peuvent vendre, c'est à quelqu'un qui revient, c'est les améliorations qu'elles ont faites sur la terre. Donc on a deux régimes de propriété collective et après deux régimes de propriété classique, tels qu'on les connaît en Europe, où on dispose d'un titre de propriété individuelle sur la terre. Alors c'est important parce que ça permet de rebondir, mais je ne sais pas s'il faut encore rebondir sur la déforestation.
Vas-y.
Il faut avancer. Mais quand on dit... c'est aussi ta question, tu disais, est-ce que les indigènes, c'est des alliés de la conservation de la nature, est-ce qu'ils protègent mieux la nature que les autres ? Eh bien, j'ai envie de dire, oui, ils la protègent mieux, mais c'est de facto, c'est presque normal. Par exemple, territoire communautaire d'origine, la TCO Tacana, dans le Norte de La Paz, c'est 144 familles et 400 000 km². Donc 144 familles et 400 000 km². Donc ils ont énormément de terres, en fait. Et de l'autre côté, ils sont environnés de communautés paysannes qui sont constituées à chaque fois d'une cinquantaine de familles, parfois un peu moins, et à qui on a attribué, grosso modo, ils ont eu 50 euros par famille. Donc quand ils ont 50, vous faites ça... J'ai du mal à faire le calcul, là, comme ça. Mais ils ont des territoires, ils ont beaucoup moins de terres. Et donc, en fait, les indigènes déforestent moins parce qu'ils ont beaucoup d'espace. Et donc, ils peuvent garder une partie très importante de leur territoire en forêt. Tandis que alors que leur mode d'exploitation et leur mode de vie, en fait, ils vivent exactement de la même façon que les communautés de paysans colonisateurs. Ils font de la yucca, ils vont faire un peu de riz, ils ont leur champ qui défriche. Mais le fait d'avoir des grands espaces fait que, de facto, on voit bien qu'ils déforestent moins. Et c'est la raison pour laquelle les ONG conservationnistes les ont soutenus pour qu'ils obtiennent de la terre. Parce qu'ils voyaient bien que quand on donnait des terres au titre de TCO, il y avait beaucoup plus d'espaces qui étaient protégés.
François Michel.
Oui, alors un exemple de propriété collective de la terre, les gens qu'on a vus dans le reportage de la RDS Juma, c'est de la propriété collective. Après, ça ne veut pas dire que ça résout tous les problèmes, justement, parce que les familles qui font partie de ces communautés ne sont pas forcément toutes d'accord, et qu'une famille peut décider, parce qu'elle est la plus nombreuse, parce qu'elle a plus de pouvoir, parce qu'elle a des armes, pourquoi pas, de mettre en place un système qui est différent de celle des autres, voire qui contredit l'intérêt collectif. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je reviens à mon téléphone portable, je suis désolé d'insister, mais ça valait pour le frigo, etc., c'est sur les nouveaux besoins. C'est-à-dire que on voit bien, enfin, je pense que vous avez vu dans le reportage, les gens dont on parle sont dans une pauvreté et dans un cadre de vie. Alors je veux bien qu'on dise que c'est extraordinaire de vivre dans une maison avec des toits en palme et sans accès à grand-chose, mais je pense qu'ils ont des aspirations pour leurs enfants qui ne sont pas celles-là. Et donc à partir du moment où ces nouveaux besoins interviennent, et pour reprendre l'exemple, tout à l'heure on parlait de l'agriculture rotative sur brûlis, souvent ce qui se passe c'est qu'effectivement ce système a fonctionné pendant des générations en Amazonie, il permet, pas qu'en Amazonie, il permet de subvenir aux besoins alimentaires de la famille, et tout à coup, aux côtés de ces besoins alimentaires, vous commencez à avoir des besoins monétaires. Et là vous dites, ben tiens, à la fin de mes 3 années de culture, plutôt que de laisser repousser la forêt, je vais mettre un peu de pâturage. Je vais mettre une vache, et puis 2 vaches, et puis 3 vaches. Et petit à petit, vous allez satisfaire vos besoins monétaires, mais sauf que le système qui permettait la régénération de la forêt se trouve bloqué par le fait, par ces surfaces qui deviennent des pâturages permanents.
Pour le dire autrement, un certain nombre d'atteintes portées à la forêt, pas toutes, mais un certain nombre d'atteintes portées à la forêt sont, entre guillemets, légitimes ou compréhensibles, j'ai peut-être du mal à trouver le bon mot, au sens où elles proviennent d'acteurs qui cherchent à sortir de la pauvreté et qu'au fond, c'est une aspiration tout à fait logique. Au fond, c'est ça. Donc, est-ce que, effectivement, la seule solution, dès lors que l'on constate ça, ce n'est pas une révision totale des mécanismes internationaux de l'aide au développement, par exemple? Mais Antoine, tu voulais prendre la parole.
Oui, juste là-dessus, il y a un exemple sur le fait qu'effectivement, parfois, un besoin monétaire se crée et que les activités traditionnelles qu'on considère comme positives vis-à-vis de l'environnement ne suffisent pas toujours à assouvir ces besoins-là. C'est l'exemple le plus emblématique, c'est ce qui se passe en ce moment à Chapuri, donc parmi les communautés d'extracteurs d'EVA qu'on a vu dans le film, qui sont les descendants en fait, de Chico Mendes. Et il y a eu, il y a quelques mois, un reportage très intéressant dans Le Monde à ce sujet, sur le fait que de plus en plus de personnes de ces communautés se tournent vers l'élevage, parce qu'il n'y a plus de marché pour les VA, tout simplement, et qu'ils se rendent compte qu'on peut générer du liquide beaucoup plus facilement avec l'élevage, en gros. Et donc, c'est complètement... c'est emblématique dans le sens où c'était une communauté qui s'était organisée autour de la protection de la forêt, et dont des leaders se sont fait assassiner par des éleveurs. Et aujourd'hui, on est dans un... Et il y a une autre question, c'est que les communautés... la gestion communautaire... La gestion communautaire des espaces en Amazonie, aussi efficace qu'elle puisse parfois être, elle est vulnérable notamment aux invasions externes. Le cas le plus typique en ce moment, c'est les invasions d'orpailleurs dans les terres démarquées, par exemple, mais aussi dans d'autres types de terres communautaires. Et là, le soutien des pouvoirs publics et la protection des pouvoirs publics est souvent indispensable. Au Brésil, la police environnementale, rattachée à l'IBAMA, elle a le droit de détruire des opérations d'orpaillage, détruire du matériel, de détruire des mines. Et le gouvernement Bolsonaro a désavoué plusieurs de ces opérations, par exemple. Donc, on a une protection, une police environnementale qui est à l'arrêt, en fait, dans beaucoup de régions, ce qui fait que les terres démarquées commencent à être de plus en plus l'objet de déboisement, ce qu'elles n'étaient pas il y a 5 ou 10 ans.
Comme vous voulez.
Vas-y, tout commence.
Un des enjeux, on le voit bien, hein, il est anthropologique, il est lié à l'introduction du numéraire, en fait, hein, donc de l'argent qui circule, et donc d'une forme de marchandisation, en tout cas, finalement, assez récente, historiquement, hein, sur le sol de certaines de ces communautés. Une des clés, mais après, je ne sais pas si c'est vraiment à nous de répondre à cette question qui, par ailleurs, est passionnante et profondément politique, mais il me semble qu'en tout cas, pour les communautés natives péruviennes, une des clés du problème réside probablement dans l'absence totale de services publics gratuits auprès des populations. Tu citais, Laetitia, tout à l'heure, l'aspiration, notamment à la scolarisation des enfants. Ben, selon les endroits du Pérou, ça peut coûter plus ou moins cher. Voilà. Donc ça peut être une des façons d'éviter, en fait, cette espèce de recours systématique. Ça ne règle pas tout.
Ta remarque me semble très importante, parce que là on retrouve des choses qu'on a dites ce matin. Ce sont des espaces qui ont été imparfaitement ou très tardivement intégrés à la nation, et où effectivement par ailleurs on est dans une région, on l'a déjà évoqué plein de fois dans ces rencontres, où les États sont faibles, où la capacité, notamment de développement de structures éducationnelles, sanitaires, etc., n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on a pu connaître en Europe de l'Ouest à l'époque des États-providence, par exemple. Et là, effectivement, je trouve que cette idée, hein, alors il ne s'agit pas de faire sortir les mondes indiens, amazoniens du numéraire et de les faire, je sais pas, revenir au troc. Ce n'est pas ça l'enjeu, mais en tout cas, limiter le besoin par, effectivement, ces dynamiques de services publics. Et une autre chose qui me venait en tête, où je développe quelque chose que je disais il y a deux minutes, c'est qu'au fond, effectivement, une des solutions, ça a été évoqué, ça peut être une révision des mécanismes de l'aide internationale. Et de ce point de vue-là, quand même, et vous allez me dire ce que vous en pensez, il me semble que la France a un rôle très particulier. Alors, la France, j'allais dire, comme tous les pays riches, mais non, la France surtout comme puissance amazonienne. Au fond, si on prend les 9 pays amazoniens, alors il ne s'agit pas de ce que la France se passe dans une position néocoloniale par rapport à cela, mais si on prend les 9 pays amazoniens, on a 8 pays qui sont très marqués par la pauvreté, même si certains ont diminué, ont vu leur taux de pauvreté beaucoup diminuer ces 20 ou 25 dernières années, mais surtout par d'immenses logiques d'inégalité. Et la France, pour le coup, n'est pas du tout dans ce cas-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle majeur à jouer de la France ?
Moi, je crois qu'il faut quand même avancer. Tu voulais dire, mais je crois qu'il faut quand même avancer de manière très humble en Amérique latine.
C'est une question, on en parlera.
On est très tatillon sur la question du néocolonialisme. Ils essayent d'inventer des nouveaux modèles et surtout, ils ne veulent pas que ces modèles viennent de l'extérieur. Et on connaît, il y a aussi cette vieille question qui revient de la peur de l'internationalisation de l'Amazonie, c'est-à-dire que l'Amazonie soit considérée plus comme un patrimoine mondial de l'humanité que comme une réserve potentielle de développement pour le Brésil. Et donc, pour toutes ces raisons-là, chaque fois que la France a essayé d'intervenir en Amazonie, chaque fois, on l'a un peu renvoyé dans ses buts. Non, moi, je ne vois pas trop la France devenir leader de ces questions-là. Et surtout, on est mal placé pour le faire, parce que nous, on a des budgets pour faire de la redistribution sociale. C'est-à-dire, on pourrait payer, comme dit François Michel, on peut payer chacune des personnes, lui donner un RSA pour s'assurer qu'elle ne fasse pas de la déforestation. Il s'appuie. Donc on n'a pas un modèle à faire passer de ce point de vue-là.
Je me suis mal exprimé. Hein. Je ne voulais pas que la France arrive avec son savoir inné pour guider les autres pays amazoniens sur le droit chemin de la conservation. Je voulais juste dire que la France pouvait peut-être agir à l'échelle internationale et dans un cadre multilatéral pour essayer de travailler à une prise de conscience, je dirais, à une prise de conscience au sein des grandes arènes internationales de la nécessité de réviser ça, parce qu'elle est un acteur amazonien. T'as l'air sceptique, François Michel.
Oui, non, j'essaie d'être diplomate. L'analyse qu'on peut tirer de la Guyane française, et d'ailleurs l'analyse exacte que font les pays latino-américains, c'est que quand on est développé, on n'a plus besoin de déforester. Et donc, leur conclusion est aidez-nous à avoir le niveau de PIB par habitant que vous avez en Guyane, je vous assure que nous, on ne touchera plus un arbre. Voilà, la question, c'est combien ça coûte ? Et combien ça coûte et d'où vient l'argent. En l'occurrence, vous avez peut-être suivi dans les divers épisodes de Bolsonaro, la Norvège avait promis $1 milliard pour sauver l'Amazonie et le gouvernement Bolsonaro les a envoyés en disant ça ne nous intéresse pas votre petit milliard, nous ne sommes pas là pour les pourboires. Le gouvernement américain maintenant est en train de revenir, le chèque serait de $20 milliards. Là quand même, on commence à discuter. Mais 20 milliards une fois, 20 milliards plusieurs fois, voilà. Mais quand on va commencer à avoir des montants de ce niveau-là, on peut effectivement commencer à proposer aux gens, on revient un petit peu au documentaire, si vous proposez 13 euros par mois aux gens pour ne pas déforester, ce n'est pas tout à fait assez. Si on est par 500 euros par mois et que ça permet d'envoyer les enfants à l'école et de subvenir aux besoins basiques, là, on n'est plus sur la même chose. De la même manière que les grands propriétaires amazoniens, qu'on voit souvent comme des très grands méchants, mais je vous assure que s'ils peuvent gagner la même somme sans déforester qu'en déforestant, eux, ils y verront que des avantages, hein, y a pas de problème. La question, c'est que pour le moment, on gagne des millions avec du soja, on gagne zéro en gardant de la forêt. Donc voilà, le choix, il est vite fait, et nous ferions le même choix qu'eux. Donc voilà, je pense ça. Après, on revient à Biarritz, on revient toujours à Biarritz, c'est le centre du monde, et on revient au G20 d'il y a 2 ans, où, face à l'ampleur des incendies en Amazonie, notre gouvernement a promis 2 canadairs et 20 millions d'euros. Voilà. Donc, si c'est ça, c'est de la petite monnaie et ça ne va pas intéresser grand monde.
Et a suggéré, d'ailleurs, a ressorti cette vieille idée de l'internationalisation de l'Amazonie. Et au fond, il suffit juste de réfléchir. Imaginons que les Vosges soient en danger, que la France n'y fasse pas attention et que quelqu'un propose l'internationalisation des Vosges, évidemment, nous deviendrions tous naturellement et logiquement très souverainistes, j'imagine. Enfin, je veux dire, pour le coup, cette proposition-là me semble... Mais alors, une des questions que je voulais vous poser également, qui n'est pas la même que la précédente, hein, c'est y a-t-il des mécanismes de concertation entre les différents États amazoniens, indépendamment, je vous dis, du possible plaidoyer qu'on pourrait faire pour l'Amazonie dans les arènes internationales? Ou est-ce que, en fait, vous ne connaissez pas la réponse? Ça arrive.
Alors, on fait le point tous les deux, là. Il y a un traité de coopération amazonienne, mais moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je suis de loin ce qui se passe et j'ai l'impression que ça ne donne pas grand-chose, ce traité de coopération amazonienne. Ouais, je sais pas si.
Il y a une organisation internationale qui s'appelle l'Organisation du traité de coopération amazonien, qui dispose d'un siège à Brasilia, qui ne fait strictement rien, parce que en fait, chaque État amazonien, en fait, le traité a été signé en 1979 face aux premières interventions internationales pour dire la déforestation en Amazonie c'est très mal, etc., etc. Et le fondement du traité, c'est de rappeler à tout le monde que l'Amazonie, pour chacun de ces pays et concernant leur petit morceau d'Amazonie, c'est chez eux. Donc du coup, c'est pas une organisation sur laquelle c'est très facile de faire de la coopération, puisque ça consiste à dire chacun chez soi, nous on fait ce qu'on veut. Mais après, pour reprendre ce que disait Olivier, effectivement, je trouve toujours très intéressant de voir que nous faisons des séminaires sur ce qu'il faudrait faire en Amazonie, comment il faudrait gérer l'Amazonie, etc., etc. Et curieusement, au Brésil, il n'y a pas de séminaire pour savoir comment il faut gérer les Alpes et pourquoi est-ce qu'il faudrait démonter les stations de ski, parce que franchement, c'est très mauvais pour les glaciers. Donc voilà, on est toujours dans cette asymétrie. Et je pense qu'il faut effectivement, si on veut repenser l'aide au développement, c'est surtout arrêter de penser, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire et essayer d'imaginer avec eux ce que nous pourrions faire tous autrement. Et j'en reviens à mes milliards de dollars et mes milliards d'euros qui pourraient aller. In fine, c'est de vos poches qui va venir. Donc c'est ça aussi ce que le message.
De nos
voilà.
Poches, pas de
nous. Oui, de vos poches, de voilà. Ouais, les miennes aussi, mais enfin, voilà.
Laetitia, Antoine.
Oui, on a l'impression que effectivement, l'organisation du traité de coopération amazonienne, si on ne connaît rien, c'est qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Mais en revanche, moi, ce que j'ai observé au départ, je travaillais sur la question de la frontière entre la Bolivie et le Brésil. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps sur la frontière entre la Bolivie et le Brésil et même entre la frontière entre la Bolivie, le Brésil et le Pérou, puisque là, on a aussi un point trifrontalier. Et ce que j'ai observé, c'est que s'il n'y avait pas de coopération très forte entre les États sur la question amazonienne, dans ces périphéries qui se sentaient isolées, qui avaient des problèmes en commun, alors qui sont des problèmes de conservation, qui étaient des problèmes de gestion d'un fleuve commun qui était le fleuve Acre, en fait, hein, et qui avait, finalement... oui, alors le Covid, c'est plus tard, mais à l'époque où ça n'existait pas, le Covid, à l'époque où j'y étais, et bien à la fin, ils ont créé une organisation qui marche très bien, qui s'appelle la région MAP, Madre de Dios, Acre, Pando, donc Madre de Dios, le département péruvien, Acre, l'État fédéral brésilien, et Pando, le département bolivien, avec plein de formes de coopération, des coopérations universitaires, des mises en commun de problématiques, plein de micro-projets. Et ça, c'est vraiment une émanation, c'était assez à la mode dans les années 90-2000, d'une société plutôt locale, en fait, ou d'institutions de la gouvernance locale, à la fois municipe, tête de département, etc. Donc c'est de la coopération, mais qui ne s'invente pas au niveau des États, mais au niveau local, et ça marche super bien.
Antoine, tu voulais dire un mot ?
Oui, à propos de cette question de la souveraineté et du fait que c'est extrêmement difficile de dessiner des solutions pour l'Amazonie depuis l'Europe, par exemple. C'est une question qu'on ne pourra jamais contourner parce que ça servira en plus toujours d'arguments, et on l'a vu avec Bolsonaro pour mobiliser les gens contre les politiques de protection environnementale. En revanche, la France est souveraine dans ses choix commerciaux et dans ce qu'elle consomme, et à ce niveau-là, la question des accords commerciaux, celui notamment qui est en train d'être négocié Je ne sais pas trop à quel point il en est. C'est pas très clair avec le Mercosur. Il va jouer un rôle important.
C'est pas très clair. Il y a beaucoup de résistance, mais vous savez quand même que c'est un des enjeux absolument majeurs, hein, politiquement là, pour le sujet dont on parle dans les prochaines années. Si cet accord est signé, il grave dans le marbre, tous les privilèges des éleveurs de bovins d'Amazonie en particulier, mais pas seulement, hein, ça vaut aussi pour l'Argentine et ça vaut pour de nombreux autres espaces. Il devient une mécanique, une nouvelle matrice de la déforestation. Il y a un point de vigilance de la part de nous tous, citoyens européens, puisque c'est un traité de l'Union européenne, mais qui doit être validé par tous les parlements, qui me semble absolument décisif. Quelqu'un a demandé la parole, non ? Oui.
Oui, je pense qu'effectivement, il y a un point de vigilance, comme tu le disais, et ce point a été intégré dans les accords et dans la négociation, mais je ne peux jamais m'empêcher de penser que nous sommes dans un monde de plus en plus multilatéral, où l'Europe n'est plus une puissance dominante au point où elle était, au point qu'elle peut imposer ses conditions tout le temps. Et ce que je me dis, c'est qu'un jour, nous aurons un partenaire en face qui va nous regarder et nous dire « Vos Airbus, ils sont construits avec de l'électricité d'origine nucléaire, nous n'en voulons pas. » Et ce jour-là, nous serons très désagréablement surpris de voir qu'on nous applique le même traitement que nous appliquons aux autres. Donc c'est pour ça que j'en reviens à l'idée que plus que l'imposition, je préfère la négociation sur l'invention de nouvelles manières de faire, parce que sinon j'ai peur qu'on soit toujours dans le conflictuel et dans l'imposition de solutions que nous avons pensées pour les autres.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette seconde partie ?
Oui, devant.
Alors.
Alors, je n'ai pas vu le film. Je pose une question bête, mais je voudrais savoir s'il y a des initiatives qui seraient un petit peu entre la fondation et la société privée qui pourrait créer, par exemple, je dis n'importe quoi, des usines de conserve de poissons, des usines de jouets en bois ou des studios cinématographiques, de manière à donner du travail aux gens et en même temps, avec une structure un peu fondation qui défende quand même la forêt, mais qui en même temps leur crée du travail pour ces gens-là, pour qu'ils puissent gagner leur vie.
L'industrialisation de l'Amazonie, quoi.
Il y a déjà ça, d'une certaine manière, même si ce n'est pas sur un but caritatif, mais le gouvernement brésilien le gouvernement militaire a créé à Manaus une zone franche qui est devenue un pôle de montage industriel. Du coup, la population de l'état d'Amazonas a conflué vers la capitale, ce qui fait que c'est l'état, et c'est pas un hasard, qui a le moins de déforestation, parce qu'en fait la population rurale s'est concentrée dans la capitale. La question après, c'est que ça amène d'autres problèmes, c'est que cette concentration de population dans la capitale amène des conditions de vie qui ne sont pas toujours décentes, amène aussi le fait que tout ça fonctionne sur le fait qu'ils assemblent des télévisions et des motos, donc il faut vendre des télévisions et des motos, donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre dans le consumérisme, etc. Donc voilà, le problème, en fait, si vous voulez, c'est que d'abord, ces chaînes sont extrêmement complexes, mais même si vous voulez revenir sur l'idée valorisons certains produits amazoniens, ce qui, effectivement, certaines personnes essayent de faire, mais c'est très difficile de le faire autrement que sous la forme de toutes petites niches, de telle huile qui va chez tel parfumeur qui va être valorisée et qui va faire vivre 100 familles, mais on veut faire vivre 1 million de familles et tout le monde ne va pas acheter du parfum. Donc comment est-ce qu'on trouve ces produits susceptibles de la valorisation et comment est-ce qu'on ne crée pas d'effet pervers ? Parce qu'à partir du moment où vous créez un effet d'opportunité sur une ressource, je vais vous donner un autre exemple. Jusqu'aux années 1960, il y avait de la chasse commerciale en Amazonie parce qu'il y avait un marché international des peaux et donc notamment les jaguars et les crocodiles, enfin les caïmans, et ont été décimés en Amazonie par les mêmes populations dont on parle là, les fameux ribeirinhos de la réserve Juma faisaient partie de ce système-là, parce qu'il y avait un marché, et donc du coup, ils allaient collecter de plus en plus loin ces ressources qui étaient valorisées sur le marché. Voilà. Donc comment est-ce qu'on crée de la valorisation des ressources sans créer une course vers les ressources qui vont être détruites ? C'est très très difficile.
Moi, j'ai un exemple qui a plus ou moins marché, mais ça fait depuis 2017, j'ai pas vu où ils en étaient. Mais c'est l'exploitation de la castagna. La castagna, c'est la noix du Brésil qu'on consomme encore assez fréquemment. Maintenant, on la trouve assez fréquemment en Europe. Et on l'appelle la noix du Brésil ou la noix du Pará. Mais en fait, le premier exportateur mondial de castagna, c'est la Bolivie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Première chose, c'est soutenable comme activité parce que c'est une activité de collecte. Et d'ailleurs, c'est souvent les anciens seringueros qui se sont mis à ramasser de la castagna. Les arbres à castagna, c'est des immenses arbres. Et donc, il faut aller dans la forêt. On ne les plante pas, les arbres à castagna. On va dans la forêt, on ramasse les noix du Brésil. Les collecteurs ramassent les noix du Brésil et les apportent dans une usine pour qu'ils soient vaguement transportés. Donc, c'est une activité soutenable. Et derrière cette activité soutenable, il y a des capitaux privés. Il n'y avait aucune ONG, aucun fonds public qui se sont mis, mais qui ont dit que ça serait une bonne idée de créer une usine ISO 9001 avec tout le standard européen de transformation de la castagna. Il n'y a pas grand-chose à faire. En gros, il faut couper la noix, la stériliser pour pouvoir l'exporter en Europe. Et donc à Cobirá, dans cette capitale bolivienne de l'Amazonie bolivienne qui est reliée à... Enfin, il faut 3 jours en bus pour y aller. Il y a eu cette usine qui a réussi à devenir un point névralgique de l'exploitation de la castagna. Et ça a très bien marché. Et tous les seringueros se sont reconvertis dans la collecte de la castagna. Il y a plus de 400 travailleurs, ne serait-ce qu'autour de l'usine, qui fonctionnent pour l'usine. Et quand vous mangez des céréales ou des barres chocolatées le matin, ou même quand vous mangez de la castagna bolivienne, et c'est soutenable. Donc parfois, ça marche. Alors, je dis jusqu'en 2017 parce qu'en 2017, j'ai vu qu'il y avait eu des grands froids et qu'apparemment, le changement climatique a un effet quand même sur la production de la noix du Brésil et il y en aurait moins qu'avant à ramasser.
Donc, merci pour votre question qui manifestement était renvoyée à des réalités qui sont déjà à l'œuvre.
Encore une petite chose concernant ce que vous disiez par rapport à la castagna. Il y a aussi le cacao qui est en train de monter... au Pérou, je parle du Pérou parce que c'est le pays que je connais le mieux, donc considérant quand même que l'Amazonie reste une marge et encore marginalisée par la coca, il y a quand même des remplacements des politiques nationales et internationales qui convergent vers le remplacement plutôt qu'arracher la coca. Donc on replante aujourd'hui du cacao pour l'exportation et ceci, et pour revenir sur ce qu'il disait c'est le tourneau, c'est effectivement, il y a Manaus, il y a plein de bubons urbanistiques comme ça en Amazonie, notamment au Pérou. Il y a Iquitos qui fonctionne, c'est la toute petite sœur de Manaus, qui fonctionne de la même manière, qui est un déchet humain, mais qui vit aussi en autarcie, qui vit relativement bien, j'ai bien relativement bien. Et il y a aussi en dessous, sur le fleuve qui est le tributaire de l'Amazone qui s'appelle Lucayali, est contrôlé par une ville qui s'appelle Pucallpa. Quand je l'ai quitté il y a quelques années, faisait 91 000 habitants. Aujourd'hui, 400 000 habitants. C'est-à-dire que l'Amazonie attire énormément. Et avec tous les dégâts, parce qu'au niveau urbanistique, ça ne suit pas. Et la corruption est absolument gigantesque. C'est le petit mot que je voulais glisser, parce qu'elle est quand même là.
Cette logique que l'Amazonie continue à attirer... au fond, là, pour le coup, c'est aussi une logique de temps long. Hein. C'était les mécaniques de colons qui partaient vers le boom du caoutchouc, et aujourd'hui, ils partent pour d'autres intérêts. Et je trouve intéressant hein, de aussi être capable d'identifier les éléments de longue durée. Il y avait une question au fond de la salle, paraît-il.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Lou et avec mes camarades de première, nous avons créé quelques questions pour vous. Donc, quel est le pays en Amazonie qui pollue le plus et celui qui pollue le moins, c'est pourquoi ?
Ah bah ça c'est François Michel dans les chiffres, mais moi je dirais le Brésil parce que plus on est nombreux.
Je suis préposé aux chiffres, mais j'ai pas les chiffres de là. Après, je pense que ce qui est compliqué dans cette question.
C'est le pays qui pollue le plus.
Oui, voilà, mais ce qui est compliqué dans la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle polluer le plus. C'est-à-dire, est-ce que c'est celui qui déverse le plus de polluants, ou est-ce que c'est celui qui déverse les polluants les plus graves ? Est-ce que c'est celui qui déverse le plus de polluants en un seul endroit, ou est-ce que c'est celui qui émet le plus de polluants sur l'ensemble de sa surface ? Donc ça va être difficile. Après, je pense que le Brésil va forcément être le champion parce qu'il est le plus grand. Donc du coup, beaucoup plus de fermes brésiliennes déclenchant beaucoup plus de pesticides, avec beaucoup plus de de pollution. Par contre, les pollutions aux hydrocarbures qui existent en Équateur au Pérou me paraissent plus graves localement parce qu'elles sont très durables et que ce sont des pollutions qui sont vraiment extrêmement toxiques immédiatement.
Peut-être juste une toute petite chose à propos de ça, c'est qu'un pays ne pollue pas tout seul non plus. On a bien vu dans toute la conversation que aussi bien la production de soja que la production bovine, la production pétrolière en Équateur, elle répond à une demande du marché international. Et par rapport à cette question dont on parlait, regarder l'Amazonie depuis un autre continent et donner des conseils sur comment y polluer moins, comment la détruire moins, etc., ça implique qu'on réfléchisse aussi à nos pratiques de consommation et à notre propre responsabilité dans les cycles de pollution internationaux.
Et pour la question de la déforestation, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un peu trop vaste par rapport à comme pour la pollution, où il y a vraiment un pays qui déforeste le plus, un qui déforeste le moins, et tout ça?
Ben non, mais en quantité, on va revenir sur la même question, c'est-à-dire qu'en quantité de forêts déforestées en millions d'hectares, c'est toujours le Brésil qui gagne, puisque le gros de l'Amazonie est brésilienne.
C'est comme en foot, c'est toujours le Brésil qui gagne.
Ouais.
Bon, merci pour vos questions, en tout cas. Y a-t-il encore des réactions dans la salle? Oui, j'arrive.
Merci pour les questions, en tout cas.
Bonjour. J'ai passé un peu de temps en Amazonie brésilienne il y a quelques années. Et je voulais faire un commentaire sur cette question d'échelle auquel vous revenez souvent, que je trouve vraiment intéressant de dire de quel point de vue on regarde. Et par rapport à ce qu'on disait, par rapport à la forêt vosgienne, bon, un truc qu'on se dit tous, mais la forêt vosgienne, si elle disparaît, ça sera triste, mais ça ne va pas avoir une conséquence sur l'humanité entière, alors que c'est vrai que la forêt amazonienne, c'est un peu le poumon à l'échelle planétaire, donc forcément... Ah, j'étais pas là ce matin, excusez-moi.
Vous avez loupé la session du matin. Hein.
Je vais vous expliquer, je vous rends le micro. C'est que ce matin, ça a un peu commencé où François Michel a dit « Bon, l'Amazonie n'est pas le poumon de la planète » et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, mais par contre, vous pouvez quand même poser votre question, je veux dire.
Alors, excusez-moi pour cette partie-là. Et l'autre partie dont je voulais parler, c'est que j'avais discuté avec un ethnologue au Brésil qui expliquait qui parlait de ce fantasme qu'on a de dire que la forêt primitive serait quelque chose de pas touché par l'humain depuis jamais. Alors, je ne sais pas, vous en avez peut-être aussi parlé ce matin. Voilà, donc il disait ça, qu'il y avait beaucoup de politiques qui étaient mises en place, comme si les gens qui vivaient là ne devaient pas y toucher, alors que c'est grâce à elles qu'ils sont... Et donc, moi, j'ai rencontré des peuples indigènes de là-bas, je ne sais pas où ça en est avec la Funaï, mais ils avaient des idées... dans leur petite communauté, de faire du tourisme avec des gens qui viendraient faire de l'écotourisme chez eux. Et ils n'avaient pas le droit, parce qu'ils sont sous la tutelle d'un organisme qui les empêche de faire les choses par eux-mêmes. Donc il y a une contradiction entre la volonté de faire autre chose et l'impossibilité en fait, d'interagir par eux-mêmes avec le monde extérieur. Je voulais savoir si vous pouviez dire où ça en est de ce côté-là.
Voilà, alors sur la question de... Bon, du coup, de la planète, je ne vais pas y revenir, mais la question, c'est que nous avons naturalisé de nos côtés les atteintes à l'environnement chez nous. Donc, on considère que notre environnement, il est très bien tel qu'il est. Et par contre, quand il va changer chez les autres, c'est une catastrophe. Voilà, la forêt hercynienne qui a disparu en Europe, c'est aussi une catastrophe écologique, sauf que ça s'est fait il y a 1000 ans. Donc, voilà, fini. Et la forêt amazonienne aujourd'hui, elle a forcément une grande valeur en tant qu'existence, en tant que production de biodiversité, etc. etc. Mais il ne faut pas protéger la forêt amazonienne au détriment d'autres environnements. Il faut protéger tous les environnements. Ce n'est pas ou l'océan, ou l'Amazonie, ou etc. C'est tout ensemble aujourd'hui, je pense. Sur le point de la forêt peuplée et de la non-forêt vierge, je vous renvoie à un excellent numéro du magazine L'Histoire sur l'Amazonie avec le collègue Stéphane Rostin qui explique ça très très bien. Donc, voilà,
numéro de l'Histoire que j'allais citer en conclusion, mais j'en profite pour vous le dire. Vous pouvez l'acheter ici, hein, donc le magazine L'Histoire qui est sans doute la meilleure revue de vulgarisation de l'histoire en France aujourd'hui, qui a consacré son numéro de l'été 2021 à la question de l'Amazonie, où trois d'ailleurs des intervenants ici présents ont écrit, François Michel, Irène et Antoine, et effectivement qui propose une très belle synthèse, alors à la fois sur l'histoire de l'Amazonie, mais aussi sur toute une série de problématiques contemporaines, et notamment ces questions sont abordées. Oui.
Je viens de te voler la conclusion une deuxième fois, je suis absolument désolé.
Non, tu n'as rien volé du tout, ne t'inquiète pas.
Mais pour finir sur la question...
J'ai une idée de conclusion encore plus perverse.
Magnifique, j'essaierai de pas, voilà. Mais je vais me taire. Mais sur la question des Amérindiens et du tourisme, en l'occurrence, oui, effectivement, les Amérindiens sont au Brésil sous la tutelle de la FUNAI. En l'occurrence, il y a maintenant une instruction normative qui règle les questions de tourisme en territoire amérindien. Donc maintenant, c'est possible, ça ne l'était pas avant. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait aussi des raisons pour lesquelles il y avait une interdiction du tourisme en territoire amérindien, parce que la présence des touristes n'est pas en soi forcément une bonne chose. Et les mécanismes que ça peut engendrer d'évolution culturelle, de dépendance à l'argent, de toutes sortes de choses, font que ce n'est pas forcément un remède miracle. Et par ailleurs, il existe assez souvent en Amazonie cette illusion de l'écotourisme, sauf que le fameux écotourisme allemand qui adore aller se faire piquer par des moustiques et qui est prêt à payer beaucoup d'argent pour ça, souvent il va au Costa Rica, il ne va pas en Amazonie.
Ouais, nous, en Bolivie, il y avait Brad Pitt qui était venu à l'époque, je me rappelle. Donc il y a des projets d'écotourisme qui marchent très bien et qui rapportent effectivement énormément d'argent. Mais il faut qu'il soit porté pendant de longues années. C'est pas du bricolage, quoi. Il s'agit pas d'avoir sa communauté et puis de mettre une pancarte écotourisme et de faire dormir des gens dans un hamac. Si on veut que ça marche, il faut bien sûr s'insérer dans un espace mondial où tous les sites touristiques sont en compétition. Et donc, il faut avoir des organisations très fortes derrière qui soutiennent les projets.
Et puisqu'on parlait de notre responsabilité, de ce qu'on peut faire nous, à mon sens, ce serait un non-sens que de faire un écotourisme qui soit complètement déconnecté des enjeux culturels. Moi, j'ai assisté, par exemple, à un terrain d'anthropologie mené par un collègue sur le sol de communauté native près de Pucallpa, justement, sur l'Ucayali, où il y a un écotourisme... Il est plus ou moins éco d'ailleurs, mais en tout cas un tourisme qui s'accompagne d'un certain nombre de discours autour de la nature, nature qui est partiellement mystifiée. Hein, c'est tout le travail, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, mais de Philippe Descola, où en gros quand on dit nature, on s'en exclut aussi. On exclut partiellement en fait, tout un tas de réflexions aussi sur la place de l'homme et sur certaines cultures amérindiennes. Et quelque chose qui se développe depuis un certain nombre de décennies maintenant, c'est le tourisme aussi à vocation consommatrice, notamment psychotrope. Au Pérou, c'est la fameuse ayahuasca, cette racine. Et ce qu'on constatait, nous, sur le terrain, alors moi en béotienne et le collègue en professionnel, c'est que non seulement, moi je pense que c'était ça sous-tendait ta réponse, François-Michel, mais ça introduit, y compris dans certaines communautés qui ont des enjeux et des pratiques d'anthropologie politique extrêmement égalitaires, des inégalités économiques qui ensuite pèsent sur les mécanismes de décision. Concrètement, le chaman en question avait l'écran plat, faisait venir les touristes et tout le reste du village n'en avait pas.
Donc, 700 dollars la semaine. J'ai une collègue, donc je ne vais évidemment pas citer le nom, qui revient d'une cure d'ayahuasca d'une semaine au Pérou, 700 dollars la semaine. C'est hallucinant.
Il ne s'agit pas de caricaturer, ni de faire preuve de fatalisme en termes de tourisme, mais il me semble que je suis moins bien placée que les collègues géographes pour en parler, mais que la géographie du tourisme est très riche et invite là aussi à des analyses très précises sur ce qu'on met derrière le terme d'écotourisme et ce qu'on va aussi chercher à la rencontre des gens. Il me semble qu'il y a un tourisme de consommation de la nature qui se fait aussi sans les hommes et qui reproduit les mêmes mécanismes prédateurs et partiellement ignorants qu'on détermine. C'est sans doute pas ce que vous souhaitiez.
Excusez-moi, il nous reste pas beaucoup de temps. En fait, c'est toujours comme ça chaque année. Donc, je vais donner la parole aux deux dernières personnes qui l'ont demandé. Je vous demande juste de ne pas être trop long, mais quand même, dites ce que vous avez à dire.
Bonjour Serge, qui n'est pas de portable. Et bravo. Simplement, je voulais dire qu'effectivement, les solutions qu'on donne, il y a un tas de petites solutions qui ont été trouvées et qui me paraissent intéressantes, mais qui ne sont que des solutions qui sont à la marge. C'est-à-dire qu'il est bien évident que tant que si on ne voit pas les choses au niveau mondial, je pense qu'on ne pourra pas les résoudre. Parce qu'il existe des choses qui s'appellent la course au profit, qui s'appellent les multinationales, et qui font que ce qui est cherché avant tout, ce n'est pas du tout ni le bien-être des populations, ni le bien-être d'autres choses, mais c'est effectivement les intérêts qui vont être ressortis pour qu'à New York, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, il y ait des intérêts qui soient touchés et des dividendes qui soient touchés. Et je pense que tant que ces populations ne seront pas contraintes, eh bien, on les verra effectivement, je veux dire, intervenir à la marge. On a bien vu l'histoire du projet Coca-Cola, là, etc., qui se hausse du col en essayant de se faire plus vert qu'il n'est, et que le vrai problème, il est effectivement beaucoup plus global que simplement celui de l'Amazonie. J'ai passé quelques temps aussi, effectivement, et j'étais très attaché.
Ce public est de plus en plus gauchiste.
C'est vous qui avez demandé la parole, monsieur. Oui, on ne peut pas multiplier le nombre de participants, mais vous n'avez pas parlé de la Colombie ni du Venezuela. Est-ce que ces deux pays ont un comportement spécifique par rapport à l'Amazonie, en deux mots ?
En tout cas, attends, je te laisse le temps de réfléchir.
Non, mais en Colombie, il y a les FARC, il y a les guérillas, il y a des territoires amazoniens qui ont totalement échappé au contrôle de l'État, dans lequel se sont développées des enclaves hors de contrôle, où il y a eu beaucoup de narcotrafic. Après, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la Colombie, donc en dehors de ça, je n'ai pas de points particuliers à dire, mais il me semble que ça fait partie de ces problématiques d'Orient andin, en fait, qu'on retrouve en Équateur. La question du rattachement de la partie amazonienne à des États qui sont des États andins, dont le noyau a été construit sur les Andes, et c'est un noyau national qui remonte, en fait, presque aux structures de l'Empire Inca, qu'ont reprises les Espagnols. Donc on est sur des structures très anciennes, et les espaces amazoniens, que ce soit en Colombie, en Équateur, au Pérou ou en Bolivie, sont des espaces à rattacher, à intégrer, des espaces de marge, en fait.
Olivier, qui est un observateur avisé de ces espaces-là, me contredira peut-être, mais la manière dont je vois les choses, c'est qu'on peut faire une dichotomie, et Laetitia l'a un petit peu introduit. D'un côté, les espaces qui sont contrôlés par les États, et où grosso modo se passe la même chose qu'ailleurs. Et la spécificité, c'est qu'il y a effectivement des espaces qui échappent complètement au contrôle de l'État, et là les différences se voient légèrement, et si on veut caricaturer dans le cas de la Colombie, mais finalement la guérilla est bonne pour l'environnement. Voilà. C'est plus difficile de déforester à grande échelle, voilà, on va faire de la coca, mais c'est des petites surfaces, donc voilà.
Cela dit, votre remarque est juste. Enfin, j'ai pensé éventuellement à inviter des spécialistes de la Colombie, du Venezuela, mais on ne peut pas mener une discussion à 6, à 7 ou à 8. Mais votre remarque est pertinente. Monsieur, vous aviez une question, n'est-ce pas ? Ce sera la dernière.
Voilà. Nous devions aborder le sujet du, comment l'appeler, le tourisme chinois en Amazonie.
Oui, c'est vrai, ouais.
Est-ce qu'on peut en dire deux mots ?
Et les investissements chinois en Amérique latine, de manière générale, sont très importants, de plus en plus importants. Hein. C'est la façon qu'a la Chine d'exister en dehors de son territoire. Enfin, pour le coup, je ne suis vraiment pas spécialiste de la Chine, mais on retrouve des entreprises chinoises intervenir dans des projets d'infrastructures, d'œuvres publiques, un peu partout en Amérique latine. Et en Bolivie, alors je parle toujours de la Bolivie parce que c'est ce que je connais, hein, mais au moment où Evo Morales est arrivé au pouvoir, où il a dit, ben voilà, avec les rentes du gaz, on va faire de la redistribution sociale, on va faire de l'aménagement du territoire. Du coup, les entreprises chinoises ont fonctionné à plein régime et on leur a acheté clé en main différentes infrastructures, un aéroport à Oruro, une route entre Oruro et La Paz. Donc là, on est dans les Andes, hein, très loin d'Amazonie. Mais en Amazonie, il y avait cette idée que, en fait, il était judicieux de faire de la canne à sucre. Alors, ce n'est pas forcément très judicieux parce qu'il pleut un peu trop en Amazonie pour avoir des bons rendements en canne à sucre. Mais il y avait quand même cette vieille idée qui datait des années 70 qu'on pourrait transformer l'Amazonie en une vaste zone de plantation sucrière. Et c'est une des premières choses qu'a fait le gouvernement d'Evo Morales et qui marque un peu le tournant développementiste et extractivisme du gouvernement d'Evo Morales. Ils ont acheté clé en main une entreprise chinoise qui s'appelle Camsé, une usine de transformation de la canne à sucre, en fait. Et c'est quelque chose de très important. Et au moment où c'était en construction, en fait, il y avait des populations relativement importantes d'ouvriers chinois. Il y en avait 200 ou 300 qui était posé un peu comme un isola, comme une enclave, parce qu'ils étaient venus pour construire l'usine de fabrication de la canne à sucre, et ils sont repartis après parce qu'ils n'avaient pas le contrat en fait d'exploitation de l'usine, mais leur job à eux c'était de construire l'usine, donc ils ont été là, ils ont construit l'usine, et puis elle marche K1, KA, parce qu'en fait ils peuvent, la zone d'exploitation de la canne à sucre ne va pas au-delà des 60 km autour de l'usine.
Oui, voilà, très rapidement, mais pour faire le pont finalement avec l'autre question qui était posée sur le fait que la solution est globale, les Chinois en Amazonie font comme nous et comme les Américains, c'est-à-dire qu'ils cherchent des matières premières pas chères et ils ont des marchés sur lesquels ils se positionnent pour vendre leurs produits. Ça, c'est le premier pas. Et jusqu'ici, nous avions une différence d'orientation, c'est-à-dire que les quelques inflexions écologiques que nous tentions de mettre dans notre politique commerciale internationale et où les Américains nous rejoignaient plus ou moins, leur échappaient complètement. Vous aurez vu que Xi Jinping vient d'annoncer qu'il n'y aurait plus aucun investissement chinois qui contribue à favoriser l'émission de gaz à effet de serre. On va voir si en Amazonie, ça veut dire que du coup, ils ne vont plus rien investir du tout, ou si, comment est-ce qu'ils vont réussir à relabelliser un certain nombre d'investissements pour dire nous investissons là dans du vert et le reste, c'est pas vert et on n'investit plus dedans.
Bien, il faut qu'on libère la salle. Alors, en guise de conclusion, je suis certain que vous avez tous des regrets de choses que vous n'avez pas dites. Et donc, je vous donne la parole, chacun à son tour, 30 secondes pour dire, mais 30 secondes pour dire ce que vous auriez aimé dire que vous n'avez pas dit ou ce qui vous semble très très important en guise de conclusion. Tu commences, Laetitia ?
Oui, alors peut-être 10 secondes pour vous remercier. Oui, mais je prends 10 secondes pour vous remercier pour votre attention. Vraiment, c'est très agréable de parler à des gens qui nous écoutent, vraiment. Et quand on est maître de conférence à l'université, qu'on a des amphis un peu distraits, merci beaucoup pour cette écoute attentive et pour vos questions qui sont toutes pertinentes. Il me reste 20 secondes pour dire que il y a quelque chose qu'on n'a pas trop dit, c'est que ce qui se jouait, en fait, dans toutes les politiques qui se mettaient en place, c'est une tension entre la justice, une justice sociale et une justice environnementale. Et ça a été en Bolivie, quand ils ont dit bon ben on lâche finalement la protection environnementale, ils ont dit on fait ça parce que ce qu'on privilégie c'est de faire de la justice sociale, c'est-à-dire que les gens élèvent en moyenne leur niveau de vie, et si ça doit se faire en distribuant des terres ou si ça doit se faire en exploitant la forêt, on le fera quand même parce que la justice sociale est plus importante que la justice environnementale. Donc nous, notre responsabilité peut-être, c'est de faire que qu'on puisse faire se rejoindre la justice sociale et la justice environnementale, et que ces pays pauvres n'aient pas à devoir arbitrer entre justice sociale et justice environnementale.
Merci. Antoine ?
Oui, je me joins évidemment aux remerciements chaleureux de Laetitia vis-à-vis de toute la salle. Et c'est vrai qu'on a prolongé dans le discours environnementaliste sur l'Amazonie, et notamment autour des questions climatiques, on a parfois prolongé la mythologie un peu homogénéisante, cette habitude qu'on a prise de définir l'Amazonie de manière exogène et de parler à la place des populations locales, et avec notamment des métaphores pas toujours efficaces comme celle du poumon du monde, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que l'Amazonie n'est pas un enjeu climatique. C'est une région où on estime que sont stockés 124 milliards de tonnes de CO2 dans la végétation et dans le sol de cet espace. On émet à peu près 43 milliards de tonnes de CO2 par an au niveau international. Donc il y a la déforestation de l'Amazonie, et sa destruction, elle s'accompagne d'une libération de ces stocks de CO2, en fait. Donc ça reste un enjeu extrêmement important pour l'équilibre climatique de la planète.
Irène ?
Moi, mes étudiants m'écoutent tous Béa, donc j'ai pas le problème de Laetitia. Mais néanmoins, c'était très agréable. Je plaisante, évidemment. Moi, peut-être deux choses. D'une part, dire qu'on en a peu parlé parce qu'on s'est focalisé sur cette espèce d'urgence là, globale qui, évidemment, nous taraude tous, qui est l'enjeu climatique, mais l'Amazonie est aussi très grande pourvoyeuse de romans, de peintures. C'est aussi quelque chose qui, voilà, qui peut nous nourrir autrement aussi et qui produit elle aussi du discours. Et ensuite, peut-être dire que moi, ce que je retiens en tout cas du débat et de vos questions et des interventions de mes collègues, c'est qu'il n'est pas impossible aussi que la solution à l'Amazonie en fait provienne de l'extérieur également. À certains égards, peut-être certaines... il me semble que c'est ce que tu écrivais, Antoine, récemment, mais c'est aussi en mettant complètement de côté la question de la redistribution foncière qu'on a présenté l'Amazonie comme une solution en fait, au partage des terres, et que peut-être, à certains égards, on pourrait repenser, version 21e siècle, encore une fois, la question de la propriété, de la répartition. Il me semble qu'il y a des enjeux qui se posent, y compris sur nos sols en Europe. Voilà.
François Michel, 30 secondes.
Merci beaucoup. Alors, merci. Ne parlez plus de poumons de la planète et ne parlez plus d'Amazonie au singulier, toujours au pluriel. Voilà, je pense que c'est bon, j'ai même fait moins de 30 secondes.
Bon, mais, alors. Merci à tous les quatre. Ils étaient très bien, hein. Ils étaient très bien. Merci à tous les quatre d'avoir pris quand même sur votre temps de travail pour vous venir ici, etc. C'était très bien. Et puis, une fois encore, hein, comme tous les ans, merci au public. Ce matin, on a compté, vous étiez 235, là, peut-être un tout petit peu moins. Il y a quand même des films, mais bon, vous êtes hyper nombreux. Et je le répète chaque année, hein, on essaie de faire circuler les savoirs qui sont construits par les sciences humaines et sociales. On le fait majoritairement, soit face à un public de chercheurs, soit face à des étudiants. Et pour nous, c'est quand même toujours un immense plaisir d'avoir ce genre d'interface avec, la société civile, enfin voilà, des gens qui ne sont pas exactement les étudiants, et d'avoir votre attention. Franchement, c'est toujours du plaisir pour nous, et c'est un peu grâce à vous. Donc, merci beaucoup, et soyez fidèles aux rencontres de l'année prochaine.
Merci. Merci, Olivier.